Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, grand bonheur de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 mai et c'est parti pour Apolline Matin. Alors il avait pourtant dit à ses partisans, faites mieux, mais il y retourne. Finalement, Jean-Luc Mélenchon repart à l'attaque de l'élection présidentielle, quatrième candidature pour Jean-Luc Mélenchon, 74 ans. La députée européenne LFI, proche du leader insoumis Manon Aubry, est l'invitée d'Apolline Matin à 7h40 aujourd'hui. Puis j'attends vos réactions, n'hésitez pas à me les envoyer, vos questions face à cette candidature, candidature décisive ou candidature de trop. Vous m'appelez au 3216 ou vous m'écrivez sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À 8h30, je reçois un invité essentiel, le gouverneur de la Banque de France, François Bureau de Gadeau, est véritablement la tour de contrôle de l'économie française. Et cette économie, elle va mal. Croissance à l'arrêt, inflation qui repart, prévision d'embauche en berne, 66e jour de guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut parler d'un choc pétrolier? Et comment se projeter? Le verdict et les remèdes, ce sera donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis toute la semaine, dans Apolline Matin, on vous offre vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. On est à vos côtés, justement, pour essayer de se projeter dans ce contexte difficile. Et ben nous, on est là. Vous allez remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra. Restez bien à l'écoute parce qu'on joue ensemble dans la demi-heure qui vient. Dans un instant, le journal de 7h, il est 6h59. On va commencer par la météo avec vous, Géraldine. Bonjour, Géraldine.
Bonjour, Apolline.
Il fait frais et pluvieux.
Et oui, c'est reparti pour la pluie. Hein. Jusqu'en milieu de semaine, ça va être un temps qui va être très perturbé et on va vraiment regarder ces cumuls de pluie dans les prochains jours. Ils vont être importants. Aujourd'hui, surtout vers le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est là qu'il va pleuvoir le plus. Mais on va aussi avoir des orages, parfois forts. Du côté de l'Occitanie, notamment, on pourra avoir de la grêle. Et globalement, sur presque tout le pays, il va pleuvoir, sauf vraiment en allant vers la Bretagne, les côtes de la Manche, où là, on aura quand même davantage d'éclaircies. Les températures baissent, pas forcément dès ce matin, où il fait encore doux. Mais cet après-midi, on va la plupart du temps passer sous les normales de saison. Il fera 16 degrés à Biarritz, 17 à Brest, Lyon 18 à Lille, Bordeaux, Marseille 19 à Paris, jusqu'à 24 pour Ajaccio.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Il est 7h, excellent réveil à tous, c'est parti, c'est lundi, on est ensemble.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Fin de Technival illégal près de Bourges. Le terrain militaire investi se vide depuis hier soir. Départ sans amende pour certains fêtards, contrairement à la promesse du gouvernement. RMC était sur place pour le vérifier. Le 4 à la suite de Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois désigné hier candidat insoumis à la prochaine présidentielle. Et cette mission d'escorte sous haute tension dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis sur le point de mobiliser 15 000 soldats pour accompagner des cargos bloqués.
La fête est finie près de Bourges.
La free party monumentale et ses quelques 40 000 fêtards, selon l'organisation, ont commencé à déserter le terrain d'entraînement militaire qu'ils occupaient depuis vendredi. Pour taper du poing sur la table, le ministre de l'Intérieur s'était rendu sur les lieux. Il avait promis une amende pour chaque festivalier. Vous étiez justement avec eux pour RMC Philippine Boulet et l'objectif n'a pas été accompli.
Les vêtements encore poussiéreux, ces deux amis quittent tout juste le festival après deux jours de fête et soulagement.
On a passé trois barrages et nous on n'a pas eu d'amende.
Ici, ils sont loin d'être les seuls à ne pas avoir été verbalisés. Difficile d'en dire autant pour l'un de leurs amis.
Mon collègue, il s'est fait choper avec une petite boulette de shit et en fait, il a eu 150 euros d'amende.
Plusieurs sources sécuritaires nous indiquent que l'objectif est de verbaliser en priorité ceux qui prennent la route après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. L'objectif pour les 600 gendarmes sur place, éviter la survenue d'accidents. Adossés à leur voiture, des cernes sous les yeux, un groupe d'amis est venu d'Angers. Eux ont écopé d'une amende.
135 pour 4, du coup.
Pour de la musique, c'est énervant.
Motif de la verbalisation, participation à une manifestation interdite, incompréhensible pour ces deux festivalières.
Il n'y a pas de problème, on n'a pas vu de problème, quoi.
Non.
Il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a toute une vie, en fait, là-bas. Ouais, c'est un village, donc en vrai, c'est
bien encadré.
Pour certains, après 4 ou 5 ans de rave party, c'est la première fois que la fête se termine avec une amende.
Et ne manquez pas, à 7h10, juste après votre journal, Victor, Loïc Carvan, qui est député Horizon du Cher, député de ce coin-là, cette rave illégale met en péril une un site stratégique de défense nationale. Voilà ce qu'il nous dira. Et puis j'attends vos réactions au 32-16. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il y aurait dû y avoir davantage de pénalisation pour les fêtards? Je vous attends au 32-16.
Faites mieux, lançait-il à ses troupes il y a 4 ans, après son troisième échec au premier tour de l'élection présidentielle. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon rempile pour une quatrième campagne, officialisation aux 20h de TF1. Sans grande surprise, Thomas Becker, puisqu'il était l'unique nom proposé lors d'une réunion des Insoumis hier.
Oui, la phrase est lâchée comme une évidence.
Oui, je suis candidat.
En 2022, il jurait pourtant vouloir être remplacé, mais à l'écouter, pour 2027, les circonstances l'obligent.
Nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis, nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, pour tenir bon, eh bien, ça ne s'improvise pas.
Il fallait quelqu'un d'expérience, c'est ce que vous nous expliquez ?
On va dire oui. C'est comme ça qu'on a conclu.
À un an de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon ne peut retenir un rictus quand il évoque la division au sein des partis, notamment à gauche. Jean-Luc est plus près que jamais, assure un de ses proches. Interrogé sur la principale menace pour 2027, il désigne le Rassemblement National.
Ah ben c'est mon adversaire principal, puisqu'il paraît qu'il va gagner.
Une façon de se projeter à l'avance dans un duel face au RN qu'il prophétise depuis longtemps.
Thomas Becker du service politique de RMC. Le monde entier retient son souffle ce matin et observe ce geste humanitaire, comme l'appelle Donald Trump. Cette opération militaire américaine d'ampleur en plein détroit d'Ormuz, annoncée par le président américain, est destinée à escorter des cargos bloqués depuis le début du conflit avec l'Iran. Romain Houg, le début de la mission est attendu d'un instant à l'autre.
Oui, l'opération baptisée Project Freedom, projet Liberté, doit démarrer ce matin, heure locale, dans le détroit d'Ormuz. Il est 2h de plus là-bas, mais le président américain n'a pas communiqué un horaire plus précis. Ce que l'on sait de cette opération menée par la marine américaine, c'est qu'elle doit impliquer pas moins de 15 000 soldats, une centaine d'aéronefs, drones, avions et des navires de guerre, précisément des destroyers lance-missiles qui vont escorter au travers du détroit d'Ormuz des navires commerciaux de pays, je cite Donald Trump, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. À la fin du mois dernier, 913 navires commerciaux étaient présents dans le Golfe, dont 270 pétroliers et une cinquantaine de navires gaziers. Tout cela, forcément, ne plaît pas aux Iraniens qui ont immédiatement prévenu que toute intervention américaine serait perçue comme une violation du cessez-le-feu. Va-t-on vers une nouvelle escalade dans le conflit ? Donald Trump, lui aussi, a prévenu si cette opération venait à être entravée par l'Iran, eh bien, cela devrait, malheureusement, dit-il, être traité par la force.
Et pas d'incidence majeure sur les cours du pétrole pour l'heure. Niveau toujours très haut, aux alentours de 110 $ le baril. Le gouvernement et les distributeurs de carburant ont justement rendez-vous encore une fois aujourd'hui. Et par ailleurs, on connaît la date d'ouverture de la plateforme pour demander, vous savez, l'aide de 50 € pour les grands rouleurs. Ce sera le 27 mai prochain. C'est en revanche dès aujourd'hui que le repas du Crous à 1 € est généralisé pour tous les étudiants. Il était jusqu'à maintenant réservé aux seuls boursiers. On y reviendra dans le journal de 7h30. Cette affaire va forcément vous ramener quelques années en arrière. Un virus met l'Organisation mondiale de la santé en alerte. 3 personnes ont perdu la vie sur un bateau de croisière. Il est actuellement au large du Cap-Vert. Le suspect, c'est ce qu'on appelle un antivirus virulent, contagieux et mortel, Célestin Bougère.
Sur ce bateau de croisière MV Ondus, c'est un homme de 70 ans qui a en premier présenté des symptômes. Il est décédé à bord du navire. Sa femme, contaminée, elle aussi a été évacuée avant de mourir à l'hôpital de Johannesburg en Afrique du Sud. Une maladie rare avec un fort taux de mortalité, selon le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris.
La contamination, c'est à partir des souris et des rats où les urines et les excréments des rongeurs contiennent le virus et les gens vont inhaler la poussière des urines et les excréments de rats dans des zones rurales. Ça donne une espèce de grippe avec une pneumonie extrêmement rapide.
Ces antivirus peuvent se transmettre dans de très rares cas entre humains. Il faut donc rester vigilant.
Les gens peuvent être contagieux sans avoir trop de symptômes. Donc bien sûr qu'il faut mettre les gens en quarantaine avant qu'on ait compris vraiment le mécanisme. C'est une maladie vraiment, vraiment grave.
Mais le professeur se veut rassurant et rappelle que chaque année, seulement quelques centaines de cas sont détectés dans le monde.
Les explications de Célestin Bougère pour RMC. Il est 7h07, le foot et Lyon qui double ses concurrents dans la course au podium de Ligue 1. 4-2 contre Rennes hier soir, victoire sans appel mais pas sans conséquence puisque les Lyonnais profitent du match nul de Lille pour prendre la 3e place du classement. L'OL, à qui l'on promettait l'enfer en début de saison, a quasiment assuré une qualification européenne. Édouard G.
Les bras levés de Corentin Tolisso vers ses parents en tribune, des haous répétés qui descendent des virages. C'était un soir en partagé avec les supporters pour Clinton Mata, le défenseur lyonnais.
Ils ont toujours été là dès le début, même dans les moments difficiles, ils n'ont pas lâché, ils ont toujours poussé. C'était aussi important de pouvoir leur montrer aussi notre amour et c'était un signe de reconnaissance.
La Ligue des Champions n'a donc jamais été aussi proche pour l'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca.
Difficile d'imaginer que quand on a commencé la saison, que nous pouvons être ici, être soit troisième en ce moment est incroyable, mais on a tous deux matchs très difficiles.
Avec à la baguette un grand homme, Corentin Tolisso, impliqué sur 3 des 4 buts, un capitaine qui bluffe tout le monde, Clinton Mata notamment.
Champion, je ne sais même plus quoi dire sur Coco. C'est un capitaine exemplaire, une détermination, et il le montre encore match après match.
Il reste 2 matchs désormais à Toulouse et face à Lens pour sécuriser une place européenne inespérée en juillet dernier, quand l'OL était alors promise à la liquidation.
Édouard G pour RMC en rugby, Coupe d'Europe, Bordeaux-Bègles a battu Basse 38-26 en demi-finale de Champions Cup hier. L'UBB défendra son titre contre le Leinster.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h08 sur RMC. Entre 20 000 et 40 000 fêtards réunis près de Bourges ce week-end en toute illégalité. Un technival organisé sur un terrain militaire et ça relance le débat et on a l'impression que ça le relance à chaque fois. Est-ce qu'il faut davantage réprimer les organisateurs, les participants à ces réunions? Parti. Loïc Kervran est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Êtes député du Cher, député Horizon. Vous étiez sur place hier avec le ministre de l'Intérieur. Il faut durcir les sanctions et vite. Voilà votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir, à nous dire s'il faut, oui ou non, plus de sanctions contre les fêtards de ces technivals illégales. Je vous attends au 32-16. Il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, très bon réveil sur RMC. Et ces phrases qui ont été prononcées par le ministre de l'Intérieur ce week-end. Écoutez bien, tous les participants au Technival seront verbalisés. Voilà la promesse que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, en déplacement dans le Cher, avait fait hier, là où la rave party sauvage a donc été organisée tout le week-end. Vous y étiez, Loïc Kervran, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes député Horizon du Cher, vous avez donc accompagné Laurent Nunez hier, vous avez entendu ces phrases qui ont été prononcées. Selon nos reporters présents sur place, honnêtement, ça n'a pas du tout été le cas. Les participants du Technival n'ont pas été systématiquement verbalisés, quelques-uns certes, mais très peu. Est-ce que vous estimez que les réponses ont été à la hauteur des promesses ?
Mais ça montre l'extrême difficulté sur un terrain très très étendu avec beaucoup de gens qui quittent le festival à pied. En réalité, votre reportage le disait bien, certains festivaliers qui sont habitués de ces rave parties ont été verbalisés pour la première fois. Ce sont des milliers de procès verbaux qui ont été dressés jusqu'à maintenant, plus de 2500 hier soir, j'ai pas encore le décompte ce matin, mais c'est réellement une verbalisation d'une ampleur exceptionnelle.
Alors, aujourd'hui, la participation officiellement à une manifestation interdite est punie par la loi de 135 € d'amende. Nous, dans notre reportage, on a vu que certains avaient eu des amendes, notamment parce qu'ils avaient en leur possession de la drogue, parce que ça aussi, c'est passible d'amende. Mais les amendes pour participation à une manifestation interdite, vous avez vraiment l'impression qu'elles vont être appliquées ?
Mais je ne sais pas si elles vont être recouvrées, c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que notre législation elle a besoin d'évoluer, parce qu'aujourd'hui on est sur du contraventionnel, de l'amende, de la contravention. Et il faut aller vers du délictuel, des amendes forfaitaires délictuelles avec une inscription au casier judiciaire. C'est ça qu'avec mon groupe Horizon, nous souhaitons aussi.
C'est ça que vous demandez ? Vous le demandiez déjà avant que ce Technival, avant que ce Technival sauvage ne se passe sur votre circonscription ?
Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, nous avons fait adopter le texte de ma collègue Laetitia Saint-Paul, une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale pour durcir les sanctions, pas seulement contre les organisateurs, mais aussi contre tous ceux qui concourent au déroulement de ce type de manifestation. Ça, c'était avant le Technival, et je dirais que ce Technival aujourd'hui à Bourges, il renforce notre détermination, parce que tout ce qui s'est passé est proprement insupportable.
Insupportable pour vous ? Qu'est-ce qui est le plus insupportable pour vous ? Comment vous définiriez les choses ?
Beaucoup de choses. D'abord, ce matin, vous voyez, il y a des enfants dans le Cher qui ne pourront pas aller à l'école parce que 8 lignes de ramassage scolaire ne peuvent pas se tenir à cause du stationnement anarchique, de bus qui ne pourront pas circuler, de piétons sur les voies, etc. Nous avons aussi les champs et les prés de nombreux agriculteurs qui ont été fortement dégradés, des champs qui ne pourront pas être récoltés, des blés qui ont été complètement massacrés par des véhicules, par des piétons. Nous avons aussi de nombreuses dégradations. Et puis là, nous sommes dans un cas particulier puisque c'est un site militaire, un site stratégique, important pour la défense de la France et de l'Europe, sur lequel des tests sont menés régulièrement, en particulier des canons César. Et tout ça, malheureusement, va être interrompu au moins partiellement pendant plusieurs jours.
Donc attendez, vous êtes en train de nous dire que ce matin, les conséquences, il y a des conséquences pour les agriculteurs, il y a les conséquences pour les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école, et il y a des conséquences militaires. Ça veut dire que on sait d'ailleurs que deux obus non explosés avaient été retrouvés sur place, ce qui posait évidemment une question de sécurité. Mais ça veut dire que les tests militaires qui doivent normalement avoir lieu et se tenir sur ce terrain ne vont pas pouvoir se tenir.
Oui, une partie de l'activité de test va pouvoir reprendre sur une zone limitée de ce terrain. Il faut imaginer que c'est un terrain qui fait 40 km de long. La rêve partie, elle se tient au bout. Et pour un certain nombre de tests, nous avons besoin de l'entièreté de cet espace, de ces 40 km. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a encore des milliers de personnes sur place. Il y a de très nombreuses dégradations qui ont été commises sur les infrastructures de la Direction Générale de l'Armement, sur les bunkers dans lesquels se réfugient les ingénieurs qui contrôle les tests, sur les guérites et les barrières d'accès, etc. Tout ça va prendre du temps, va coûter très cher. Et or, nous sommes sur une zone de test très stratégique, nous avons besoin, elle tourne à plein toute l'année, pour vous dire aussi le niveau d'irresponsabilité des personnes qui ont participé à ce festival.
Une question, vous en parlez encore au présent, me semble-t-il. Est-ce que au moment où on se parle, il y a encore des fêtards sur place?
Oui, il y en a encore. Nous ne savons pas exactement à quel moment tout cela va se terminer. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont quitté le lieu hier. On est passé d'environ 17 000 le matin à 11 000 le soir. Mais vous voyez, il restait encore énormément de monde hier soir encore.
Je voudrais que vous puissiez aussi accueillir la parole de Thierry qui nous appelle de La Rochefoucauld en Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline, bonjour Monsieur le député.
Thierry, bonjour. Vous êtes vous-même, vous travaillez gestionnaire d'un site de e-commerce donc en Charente. Comment vous réagissez, vous, à cette rave party donc, qui se termine progressivement, mais enfin, on le voit bien qu'il y a quand même tout le week-end eu lieu dans des conditions tout à fait illégales.
Moi, je suis totalement désabusé tout le week-end. Je suis très en colère contre l'État. Parce que c'est un terrain militaire. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, parce qu'ils sont pas arrivés en 5 minutes. Hein. Je veux dire, il y a 15 000 jeunes, ils sont pas arrivés comme ça en 5 minutes. Ils ont mis un village de 600 personnes dans la terreur, ils ont mis un bazar pas possible, mais surtout le fait qu'ils soient rentrés sur un terrain militaire. Et l'inactivité de l'État, mais ça me rend dingue.
En fait, ce qui vous rend le plus fou, si je comprends bien, Thierry, c'est que c'est le symptôme quoi d'un État qui n'arrive même pas à contrôler propres lieux les plus stratégiques.
Vous rendez compte des jeunes comme ça, mais comment dire, je voudrais pas faire une comparaison qui a pas lieu d'être, mais en temps de guerre, mais ça fait peur. On n'est pas foutu d'arrêter des jeunes qui viennent piétiner notre drapeau quoi. Ils viennent salir le pays et la seule réponse c'est on va sanctionner, on va mettre des amendes. Mais vous faites ça parce que vous avez été incapable de faire en amont.
Est-ce qu'au fond Thierry ne dit pas tout haut ce que vous pensez aussi monsieur le député Loïc Kervan?
Mais bien sûr, c'est insupportable et c'est complètement contradictoire avec tout le discours qui est tenu en ce moment sur la montée en puissance d'une logique d'économie de guerre, etc. On ne peut pas dire ça d'un côté et de l'autre laisser envahir un site militaire de cette manière.
Je voudrais aussi qu'on puisse écouter certains messages de nos auditeurs qui défendent les toughers.
Il y en a pas mal ce matin, Sophie, qui nous dit « Vive le mouvement free, vive les free parties, vive la musique libre ». C'est ce qu'écrit Sophie sur le WhatsApp RMC ce matin. J'avais aussi le message d'Alex qui nous dit « C'est quand même marrant, c'est le seul courant musical qui ne dépend pas du ministère de la Culture, mais du ministère de la Défense », écrit-il, peut-être plus de l'Intérieur en l'occurrence. C'est free, c'est gratuit, dit-il, donc pas de TVA. Et du coup, l'État ne gagne pas d'argent dessus, voilà ce que...
Alors c'est free, c'est gratuit, mais ni pour les agriculteurs, ni en effet pour les élèves dont vous parliez à l'instant, et évidemment pour les militaires. D'ailleurs, question pour les agriculteurs, est-ce que vous savez s'il y aura une forme de compensation? Vous disiez que certaines des récoltes ne pourraient pas être récoltées, notamment le blé. Loïc Kervan, est-ce qu'il va y avoir des aides? Comment on va accompagner ces agriculteurs?
Oui, d'abord je veux dire que cette free party, elle n'est pas du tout gratuite pour les Français. C'est des millions d'euros qui ont été engagés entre les secours, les indemnisations agricoles, les réparations des dégâts sur le terrain et les bâtiments militaires. Donc c'est absolument pas gratuit. Sur la question en particulier des agriculteurs, oui, il y aura un dispositif d'indemnité. Ça fait partie des choses que nous avons discutées avec le ministre de l'Intérieur hier, qui était en contact avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Et on va également travailler avec les assurances. Donc les constatations vont pouvoir commencer dès que le Technival sera complètement terminé.
Dès que les gens seront vraiment partis. Merci beaucoup Loïc Kervrand d'avoir réagi à notre micro ce matin, député Horizon du Cher. Merci à Thierry aussi pour ses réactions. Évidemment, vous connaissez le chemin comme Thierry, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h20 et l'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, on connaissait Flipper le dauphin, mais on ne sait moins que le mammifère marin est aussi parfois utilisé pour faire la guerre.
Mais oui, au pic de la guerre froide, les Américains et les Russes avaient formé des dauphins pour être des soldats d'élite. Alors, ils étaient capables de détecter un ennemi ou même une mine. C'était un énorme atout militaire.
Vous allez nous le dire dans un instant. Et puis à 8h30 dans le face-à-face, je reçois, notez-le, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Notez également que, comme tous les jours, et pour notre plus grand bonheur, à 7h50, c'est à 8h50, c'est Nicolas Canteloup qui sera avec nous sur RMC. Il est 7h21, à tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur.
Rebonjour Apolline.
L'armée iranienne aurait l'intention d'envoyer des dauphins kamikazes dans le détroit d'Ormuz pour débloquer le blocus naval de l'armée américaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient? D'où ça sort?
Alors, c'est une histoire qui a l'air un peu incroyable et qui est pourtant très crédible, Apolline. C'est une information relayée par le très sérieux Wall Street Journal. Voilà de quoi il s'agit. Les Iraniens pourraient donc envoyer des dauphins porteurs de mines qui potentiellement pourraient donc faire exploser des engins militaires américains, des bateaux par exemple. Alors je précise que ces dauphins ne sont pas capables de poser une mine puis de s'en aller, mais en revanche, ils peuvent les faire exploser directement comme des kamikazes donc.
On a déjà eu recours à ces méthodes dans le passé ou c'est inédit?
Alors en tant que tel, non, pas exactement. En revanche, effectivement, les dauphins ont déjà été employés pour faire la guerre, hein. C'est même assez ancien. À l'époque de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS utiliser des dauphins pour des missions sous-marines. L'armée américaine avait même créé une division dédiée à ça. Ça s'appelait la Navy Marine Mammal Program. En français, ça veut dire le programme de mammifères marins de l'US Navy. Donc, ça concernait les dauphins, mais aussi les otaries. Tout ce petit monde était enrôlé dans l'armée américaine.
Concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces animaux?
Alors, on leur apprenait principalement à détecter et signaler des mines sous-marines. Hein. C'est pas tout, puisqu'on s'en servait aussi pour récupérer des équipements perdus en mer. De leur côté, les Russes faisaient à peu près la même chose. Leurs dauphins patrouillaient aux abords des bases sous-marines pour détecter de potentiels objets dangereux, des assaillants, car oui, les dauphins étaient aussi capables de repérer des plongeurs ennemis.
Donc on a utilisé des dauphins dans des opérations militaires.
Absolument. Pendant la guerre du Vietnam, dans les années 1960, l'armée américaine les utilisait pour détecter des mines. Idem à la fin des années 1980, des dauphins patrouillaient dans le port de Bahreïn pour protéger les bateaux de l'US Navy stationnés là-bas. Rebelote pendant la deuxième guerre du Golfe en 2003, ces mammifères ont rempli des missions de déminage.
Pendant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a encore fait appel à leur service.
Et oui, ça continue. En 2022, l'armée russe a déployé des dauphins dans le port de Sébastopol, une ville qu'elle avait annexée. Leur mission, là encore, repérer de potentielles incursions ukrainiennes. Et même avant ça, en 2019, on avait retrouvé un beluga. Donc un beluga, c'est une sorte de gros dauphin blanc, hein, qui patrouillait au large des côtes norvégiennes. Il était équipé d'une caméra. Donc visiblement, les Russes s'en servaient aussi pour faire des missions de surveillance.
À l'ère des drones, est-ce que ces animaux ont encore une réelle utilité?
Ben oui, et c'est ça qui est le plus exceptionnel, Apolline. Grâce à leur sonar, les dauphins repèrent à peu près n'importe quoi avec une furtivité inégalables. Ils sont même en mesure de distinguer différents métaux les uns les autres, donc différents objets. C'est assez pratique. Ajoutez à ça leur discrétion et vous avez donc aujourd'hui des dauphins qui sont de véritables soldats d'élite.
C'était Arthur. Arthur Chevalier, passionnant. Merci à vous. Il est 7h25. Je dirais qu'on accueille au 32-16 Valérie qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie.
Bonjour Apolline.
Valérie, vous êtes formatrice en anglais, vous vouliez réagir à l'annonce de candidature Jean-Luc Mélenchon qui hier soir au journal de 20h de TF1 a confirmé donc que ça y est, il est bel et bien candidat pour la quatrième fois à l'élection présidentielle. Comment vous réagissez ?
Alors, rapidement, moi je n'adhère pas à ce parti, à ces idées que je trouve trop extrémistes.
Ouais.
Pour moi, Mélenchon, c'est Robespierre. C'est le parti des ronchons, hein, quand vous regardez Panot et Bompard, on a l'impression, excusez-moi l'expression, qu'ils font toujours la gueule. Mmh. Bon, ça c'est un petit trait d'humour. Par contre, il faut être clair, ils ont un programme, ils ont une équipe, ils sont sur la même ligne politique depuis longtemps, on peut leur reconnaître ça. Ce qui me gêne maintenant, actuellement, par rapport à tous ces futurs présidentiables, c'est qu'ils se regardent le nombril, c'est « et moi, et moi, et moi », ma vie, mon œuvre, ma réussite. Il n'y a pas de sauveur, Apolline. Nous, on attend un sauveur, j'ai l'impression, en France, on est trop axé sur ça. Et dernière question, vous êtes journaliste, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Il n'y avait pas une histoire de procès avec Madame Chikirou à LFI ? Voilà.
Alors, il y a tout à fait une enquête qui a été ouverte, je crois que c'est pour prise illégale d'intérêt, mais je ne suis pas exactement sûre du chef d'inculpation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, en effet, me semble-t-il, un procès qui sera ouvert dans les semaines qui viennent, en tout cas avant l'été, ça devrait être ouvert. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites on n'attend pas de sauveur, mais alors on attend quoi ? Comment ça devrait se déterminer pour vous, Valérie ?
Ben moi, je pense qu'il va falloir un moment ou un autre que toutes justement ces gros égos réussissent un petit peu à mettre une sourdine et à monter un projet. Alors, pas du macronisme, hein, mais on va pas pouvoir tout le temps compter sur une seule personne. Il va falloir un moment qu'ils arrivent à s'entendre.
Le fameux homme providentiel, vous n'y croyez pas ?
Non, faut arrêter avec ça, Pauline. Non, faut arrêter. Et Monsieur Mélenchon, Patrice, il a 74 ans, c'est ça ? Donc 75 l'année prochaine, donc 80 ans à la fin du quinquennat. Alors, j'ai rien contre les personnes d'un certain âge, mais on voit ce que ça donne avec Monsieur Trump, n'est-ce pas ?
Merci en tout cas pour votre réaction, Valérie. Je recevrai Manon Aubry, la députée européenne LFI, proche donc de Jean-Luc Mélenchon, à 7h40 dans 10 minutes maintenant. Et puis effectivement, pour répondre à votre question, Valérie, on vient de vérifier, la députée Sophia Chikirou sera jugée en mai pour escroquerie donc devant le tribunal judiciaire de Paris, mais rien contre Jean-Luc Mélenchon à proprement parler. Valérie, les choses sont dites. Merci à vous, n'hésitez pas, le 32-16 bien sûr. Il est 7h27 sur RMC. Notez-le. On vous offre vos vacances sur RMC toute la semaine. On vous fait gagner vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous allez remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Et surtout, il s'occupe de tout. Il s'occupe des activités, il s'occupe des enfants, il s'occupe des repas. C'est le tout compris premium. Pour remporter vos vacances Bel Embrun, vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on se retrouve dans un instant, il est 7h28, dans une minute, la météo et le journal de 8h, de 7h30, avec notamment à la une cette quatrième candidature à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Vos réactions, vous n'hésitez pas. Et puis à 7h50, est-ce qu'il faudrait instaurer un congé climatique ? C'est la nouvelle idée des Verts et ça fait réagir notre voix de droite, Louis Sarkozy, qui sera en direct à 7h50. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Sa candidature ne faisait que peu de doutes. Elle est désormais officielle. Jean-Luc Mélenchon se lance dans sa quatrième campagne présidentielle avec la France Insoumise. Project Freedom. Donald Trump veut libérer le détroit d'Hormuz. Il envoie la marine américaine pour escorter des navires dès ce matin. Et pendant ce temps, le gouvernement français demande encore des efforts aux distributeurs de carburant. Ils sont convoqués à Bercy. Autre mesure pour le pouvoir d'achat, celui des étudiants. Cette fois, à partir d'aujourd'hui, ils pourront tous bénéficier d'un repas à 1 euro au Crous, jusqu'ici réservé à un aux boursiers.
Et de 4, Jean-Luc Mélenchon se lance dans sa quatrième candidature présidentielle.
À 74 ans, il sera à nouveau le candidat de la France Insoumise à l'élection prévue dans moins d'un an. Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé lui-même hier soir, alors qu'il y a 4 ans, il promettait pourtant de céder la place. Alors qu'en pensent les électeurs LFI ? Notre correspondante Anna Jaugère leur a posé la question à Marseille.
Sans hésitation aucune, Maria et Aya revoteront pour Jean-Luc Mélenchon en 2027.
Que ce soit Mélenchon, c'est le mieux parce que c'est celui que tout le monde connaît, donc qui a le plus de chance.
Et peu importe les polémiques.
C'est vrai que Mélenchon, il a son caractère, mais moi je vote pas pour une personnalité, je vote pour un programme et c'est son programme qui compte.
Si on a une idée politique dans la tête, ben on reste en fait solide sur ses appuis, ouais. Peu importe ce qui se passe, peu importe les événements.
Elisa aussi revotera pour le leader de la France Insoumise, âgée de 74 ans, mais elle regrette.
Et il aurait dû
céder la place aux jeunes, c'est ce qu'il avait dit en 2022. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons jeunes, je trouve, dans LFI.
D'autres anciens électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'avouent déçus et n'envisagent plus de glisser un bulletin à son nom dans l'urne. C'est le cas de Lola, qui avait pourtant voté pour lui en 2022.
Je trouve que l'incarnation de ce parti par Jean-Luc Mélenchon n'est pas bonne. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en l'espace de 5 ans. Et lorsqu'il y a eu cette affaire avec Adrien Quatennens, ça a été une vraie désillusion. Pour moi, les masques sont tombés.
Et cette électrice conclut qu'elle aurait pu voter pour LFI si une autre personnalité avait été désignée.
Et juste après votre journal, Rachel, mon invité, ce sera Manon Aubry, proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon. Sa réaction, et puis vos réactions surtout, au 32-16.
Donald Trump promet de libérer le détroit d'Ormuz. Le président des États-Unis missionne la marine américaine de commencer dès ce matin une opération de déblocage pour permettre donc à des navires bloqués depuis 2 mois de traverser ce point névralgique du commerce mondial du pétrole. Car les prix des carburants, eh bien, ils ne baissent toujours pas. Sébastien Lecornu demande à Total Energy un plafonnement généreux. Le Premier ministre met la pression sur les distributeurs qui seront justement reçus ce matin à Bercy, Thomas Becker.
Oui, presque un rituel depuis le début de la crise. Les distributeurs convoqués à Bercy, objectif contrôler les marges. Les distributeurs donnent leurs chiffres, les ministres les comparent avec leurs tableaux pour vérifier que les prix à la pompe respectent les prix du marché. Alors que les cours du pétrole restent très élevés, le plafonnement des prix par Total a été accueilli comme une bonne nouvelle par le gouvernement. Mais hier, le Premier ministre a plaidé pour un plafonnement généreux, sous-entendu avec des prix plus bas pour les automobilistes. Sauf que sur ce point-là, le gouvernement est dépendant de la décision de Total. Alors Sébastien Lecornu tente de reprendre la main sur les aides ciblées et défend son approche secteur par secteur. Un de ses conseillers précise à RMC, s'il faut renouveler, adapter ou augmenter les aides, on le fera.
Et concernant les aides, on connaît désormais la date d'ouverture de la plateforme de demande de l'indemnité carburant de 50 euros. Dès le 27 mai, tous les travailleurs modestes qui roulent beaucoup pourront la réclamer.
Et est-ce qu'on peut parler de choc pétrolier? Comment se projeter? Ne manquez pas à 8h30 le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui sera mon invité. Son verdict sur l'économie française avec une croissance à l'arrêt, une inflation qui repart et des prévisions d'embauche en berne. Ne manquez pas donc François Villeroy de Galhau à 8h30.
À côté de Bourges, dans le Cher, les dizaines de milliers de festivaliers réunis depuis vendredi ont commencé à quitter le terrain militaire qu'ils occupaient illégalement. Mais 8 lignes de transport scolaire sont empêchées quand même de circuler ce matin. Le ministre de l'Intérieur promet de mieux réprimer ces technivals à l'avenir. Cette mesure-là entre en vigueur dès aujourd'hui. La généralisation du repas à 1 euro, et ça pour tous les étudiants. Elle était jusqu'à présent réservée aux boursiers. Ce prix est désormais accessible aux 3 millions d'étudiants en France, mais ça va demander quelques ajustements, comme vous l'avez constaté dans ce Crous de Lyon, Vincent Chevalier.
Dans ce restaurant universitaire, près de 2500 repas servis par jour, la moitié à des étudiants non boursiers qui payaient jusqu'à présent 3,30 euros ou plus. Pour eux, c'est forcément une bonne nouvelle.
Les études de médecine, par exemple, c'est des études qui sont très longues et donc les étudiants en médecine qui finissent vraiment tard leurs études, c'est hyper intéressant pour eux.
Marie, elle, est boursière et bénéficie déjà du repas à 1 euro. Elle sait l'importance que ça peut avoir pour le budget de ses camarades.
Tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas boursiers, peuvent avoir des difficultés financières parce que la bourse, elle est donnée de manière pas aléatoire, mais sur des critères qui sont pas toujours justes pour tous les étudiants.
Le Crous attend beaucoup d'étudiants supplémentaires. Il a donc fallu revoir l'organisation, notamment au niveau du self, où chaque kilo de cuisine proposait une spécialité. Mélanie Desbans, directrice de la restauration.
Le principe sera de supprimer l'identification de ces îlots et de disposer tous les choix de plats sur tous les îlots, de façon à homogénéiser les files d'attente.
Pour l'ensemble du dispositif, le gouvernement a prévu 50 millions d'euros, mais pas sûr que l'enveloppe puisse couvrir les dépenses supplémentaires liées notamment au recrutement de personnel.
Il est 7h36 sur RMC. Les rugbymans de l'Union Bordeaux-Bègles décrochent leur ticket pour la finale de la Champions Cup.
Et grâce à leur victoire 38-26 face aux Anglais de Bath hier, les Bordelais disputeront donc leur deuxième finale consécutive contre les Irlandais du Leinster. Et ils pourront compter, Nicolas Paolorsi, sur le soutien indéfectible de leurs supporters.
Oui, les supporters de l'UBB ont pu célébrer cette grande victoire. Contre Basse, Bordeaux a signé un 15e succès consécutif en Champions Cup. Le talonneur Maxime Lamotte.
C'est des matchs qui sont ultra excitants à préparer, ultra excitants à jouer. On vit pour ça, on fait ce métier pour ça.
Louis Bielbiard est meilleur marqueur de la compétition, se projette déjà sur la finale.
On a aussi maintenant de l'expérience d'une finale gagnée l'année dernière. On sait les ingrédients qu'il faut y mettre, donc je pense que c'est une force.
Bordeaux-Bègles sait désormais gagner les grands matchs et ne veut surtout pas connaître le goût amer d'une défaite en finale. Le manager Yannick Bru.
rentrer en finale pour partir vaincu, on l'a déjà vécu quelques fois dans une autre compétition. Ça laisse un sentiment très très violent. On va essayer de ne pas rééditer ces erreurs-là.
L'UBB est la quatrième équipe française à se qualifier pour deux finales d'affilée dans cette compétition, après Toulouse, Toulon et La Rochelle. Réaliser le doublé serait fabuleux pour les Bordelais.
Et puis le quintet, c'est le quintet plus aujourd'hui à Vichy à 13h55.
Et le pronostic de Dimitri Blanloy de la Dream Team des courses RMC, son favori c'est le 13, historique Mazoun, et son outsider le 15, Harmonie la nuit.
C'était le journal de Rachel Sadodine, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci.
Faites mieux, merci. C'était le soir du premier tour de 2022. Jean-Luc Mélenchon qui terminait troisième à l'élection présidentielle. Et pourtant, il y retourne. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne LFI. Vous étiez hier à la réunion qui a donc officialisé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous nous racontez dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, donc candidat une quatrième fois. Pourquoi? Pour qui? Pour faire quoi? Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h38.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. Et RMC, sorry, il devait passer le flambeau. Jean-Luc Mélenchon, candidat, une quatrième fois à l'élection présidentielle. Il l'a donc annoncé hier soir au journal télévisé de TF1. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée, La France Insoumise. Vous étiez d'ailleurs hier dans cette réunion qui a officiellement approuvé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra dans un instant. Un homme blanc de 74 ans qui a quand même déjà échoué trois fois, est-ce que c'est ça pour vous la nouvelle France ?
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a amené la gauche au plus haut ces dernières années, quand la gauche était en cendres, y compris après le quinquennat de François Hollande. C'est celui qui a raté de peu la marche du second tour en 2022. Et moi, j'ai envie de faire cette campagne avec enthousiasme, parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a la stature, la carrure, dans un désordre international global, de ramener une voix de la France qui pèse au niveau international et qui répond aux urgences des Français. Et puis Jean-Luc Mélenchon, rassurez-vous, il n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe. J'en fais partie. Avec Dot, je crois que c'est une des plus grandes forces. Quand il disait « faites mieux », nous avons fait mieux aux élections européennes, nous avons fait mieux aux élections législatives. Et c'est désormais avec cette force collective qu'il va faire la campagne de 2027.
C'était une évidence ?
Oui, je crois que c'était une évidence. Pour être honnête, on en discute déjà depuis des mois entre nous, évidemment. On en a discuté dans notre réunion de direction du mouvement politique la semaine dernière, puis notre réunion d'intergroupe.
Mais parce que quand je dis c'était une évidence, c'est-à-dire que effectivement, vous faites partie des partis qui mettaient le plus en avant l'idée d'un vrai renouvellement de la classe politique. Les femmes, les jeunes, les personnes racisées, pour reprendre l'expression utilisée par vos propres députés. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, justement, il incarne celui qui a permis de porter ses propositions qui s'adressent à cette nouvelle France.
Oui, de les porter. Mais vous vous souvenez des propos même de Rima Hassan, par exemple, qui dit « le temps du porte-parole est révolu ».
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui a permis à la gauche d'être à son plus haut niveau. Et on aurait tort de se priver de cet atout, on aurait tort de se priver de ses compétences, et on aurait tort de se priver de l'équipe et du programme qui va derrière. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser. En l'espace de moins de 24 heures, on a fait appel à un parrainage citoyen. On en est ce matin à plus de 60 000 signatures sur Mélenchon2027.fr.
Donc sur le site que vous avez ouvert hier.
Exactement. On a demandé 150 000 parrainages citoyens parce que nous ne croyons pas au parrainage de grands élus. Et c'était d'ailleurs la proposition de Lionel Jospin, 150 000 parrainages citoyens. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui se disent en ce matin, dans la nuit noire, il peut y avoir une aurore et une lumière au bout du tunnel. Vous voyez, j'ai envie
donc,
d'être
vous avez
un
envie
petit
d'être
peu
lyrique.
Poétique
vous avez envie
ce,
d'être
matin.
Lyrique ce matin.
Mais parce que on a besoin de cet espoir, on a besoin de relever la tête, on a besoin de défendre la dignité du peuple français. La hausse du salaire minimum, la retraite à 60 ans, le blocage des prix de l'essence, notamment des gens qui sont pris à la gorge. C'est ça qu'on va défendre dans cette campagne et je crois que ça répond à une aspiration.
On va parler de l'économie ce matin. À 8h30 tout à l'heure, je recevrai le gouverneur de la Banque de France et je le signale pour ceux qui nous écoutent ce matin. Il reviendra précisément sur les prévisions de croissance qui clairement financièrement seront sans doute bien moindres que celles qui étaient éventuellement espérées. Vous étiez donc à cette réunion qu'on appelle réunion intergroupe hier. On en a vu quelques photos que vous avez divulguées sur les réseaux sociaux. Ça s'est décidé comment, cette candidature de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors d'abord, ça s'est décidé dans une procédure qui a été votée par l'ensemble des militantes et des militants insoumis. Ça a fait peu de bruit, mais nous avons tenu une assemblée représentative il y a plusieurs semaines de cela. Et nous avons décidé d'une procédure. Cette procédure est la suivante. C'est une proposition qui est faite par notre direction du mouvement qui s'appelle la coordination des espaces, dans laquelle je siège également, qui a ensuite proposé la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la réunion de l'intergroupe.
Mais il n'y avait pas d'autre candidature.
Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, il était une évidence pour nous toutes et nous tous qu'il était notre
fait un vote, mais sur
meilleur représentant. Oui, mais on a eu une discussion collective. Aujourd'hui, Gabriel Attal est président. Quelle est la et candidat, pardon. Quelle est la procédure qu'il
a encore président. Il l'espère. Mais
et je pense qu'il ne le sera pas. Et en tout cas, on n'a pas envie qu'il le soit. Quelle est la procédure qu'il a nommé candidat? Pareil pour Édouard Philippe, candidat d'Horizon. Quelle est la procédure? Je crois qu'on a eu la
donc
procédure.
C'est un exemple pour vous.
Je pense on a eu la procédure la plus
non mais je veux dire c'est un exemple pour vous dites finalement les autres font pas mieux donc pourquoi
non ce que je vous dis c'est que nous on se distingue précisément parce qu'on a eu une procédure qui est transparente et qui est maintenant soumise à l'onction populaire avec le site de soutien. Écoutez, 60 000 signatures en moins de 24 heures, c'est beaucoup plus que toutes les autres initiatives qui ont été prises, tout parti confondu.
Le programme, vous l'avez dit, vous avez résumé ça, j'ai l'impression vraiment à un mantra. La retraite à 60 ans, le SMIC qui serait augmenté nettement et un blocage des prix.
Pas que, je vous rassure.
Mais au moment où on se parle, c'est vos trois
on
piliers.
Aura l'occasion de présenter notre programme plus en détail à l'automne. Vous savez, à la France Insoumise, on est des travailleurs et je crois qu'on avait le programme le plus complet en 2022. Il sera tout aussi complet, y compris en explorant de nouveaux domaines, de nouvelles questions qui sont posées. Je pense à l'intelligence artificielle, comment mieux redistribuer les richesses dans notre pays à l'aune d'un niveau de pauvreté qui est inégalé. Toutes ces questions seront explorées. Moi, j'aurais à cœur de poser la question aussi de l'héritage. On aura l'occasion de détailler tout ça dans cette campagne. Elle sera longue, elle sera vivante et elle sera aussi innovante en ce qui nous concerne.
Je vous pose la question dans un instant, notamment sur les profits total, mais je voudrais qu'on puisse accueillir aussi la parole et la réaction de Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Apolline.
Cédric, vous êtes taxi en Haute-Garonne. Manon Aubry vous écoute, votre réaction.
Bonjour Madame Aubry, déjà. Bonjour. Moi, je suis atterri par la candidature de personnes qui ont été très proches du pouvoir, voire députés, qui n'ont jamais rien fait pour, entre guillemets, sauver la France, faire ce qu'il faut, et qui là, bizarrement, auraient les idées pour sauver la France.
Il a été ministre, député aussi, mais je veux dire sénateur, me semble-t-il, et ministre. Ça veut dire quoi? Vous estimez, vous, qu'il faut changer, qu'il faut...
Moi, je suis pour le renouvellement, exactement. Mais mettre qui à leur place, c'est vrai, c'est une question dont j'ai pas la réponse. Mais voyez, j'ai toujours voté toutes les élections municipales, tout. Mais là, c'est la première fois où je ne donnerai ma voix à personne. Quoi. Je vais voter blanc, même si je sais que ça comptera pas. Mais
vous prévoyez pour la première fois de ne pas voter parce que vous estimez que les candidats, en tout cas, bon, on n'est pas encore tout à fait sûr de tous les candidats, mais enfin une bonne partie, vous estimez qu'ils sont tous dans le paysage depuis trop longtemps?
C'est ça. Et puis, à mes yeux, ils n'ont rien fait pour sortir du caca dans lequel on est actuellement, quoi. Et là, bizarrement, ils auraient la possibilité de le faire, les idées pour le faire. J'ai du mal avec ça, en fait.
Manon, oui.
Écoutez, on va se dire les choses franchement. La France, elle est à l'envers. Et ça ne vous a pas échappé que nous n'étions pas au pouvoir ces 10 dernières années. Et je pense que Emmanuel Macron a mis la France à l'envers. Et nous, on veut essayer de la remettre à l'endroit. Et donc, pendant toutes ces années, on a porté des propositions extrêmement concrètes. Quand je vous parle, par exemple, du blocage des prix, ça fait partie des propositions que nous avons portées à l'Assemblée nationale. Quand je vous parle de l'augmentation du salaire minimum, ça fait partie des propositions que nous avons portées à l'Assemblée nationale. Quant au renouvellement, je crois que l'équipe qui est autour de Jean-Luc Mélenchon démontre qu'il y a une nouvelle génération qui est entrée en politique, j'en fais partie. C'était pas mon métier, moi je travaillais pour une ONG, l'ONG Oxfam, dans la lutte contre l'évasion fiscale et je mets mes compétences, mon expertise au service de cette campagne comme d'autres collègues le font et j'espère et je me donne un défi, on a un peu moins d'un an de campagne pour vous convaincre et j'espère qu'on arrivera à vous convaincre.
Une question Manon Aubry, François Ruffin qui vient de vos rangs au départ, se dit aujourd'hui hostile à l'immigration de travail. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens ou roumains. Comment vous réagissez ?
Je crois qu'on ne combat pas l'extrême droite en allant sur son terrain. Et c'est un avertissement que je veux lancer assez solennellement à tous ceux qui se revendiquent de la gauche et qui aujourd'hui peut-être perdent un petit peu leur boussole. On combat l'extrême droite en bataillant fermement contre ses idées, contre, par exemple, au niveau européen, a été voté ces derniers mois des textes catastrophiques qui violent allègrement les droits humains. On va renvoyer, on va créer des camps d'exil dans des pays dans lesquels les exilés n'ont jamais mis les pieds. On va renvoyer des Afghans en Albanie, par exemple. Pour vous donner que ces exemples-là, et je pense que François Ruffin fait une erreur et que la gauche, dans son histoire, a toujours été accueillante, non pas pour ouvrir les vannes, mais pour dire, en fait, quand des personnes ont traversé la mer Méditerranée au péril de leur vie...
Alors là, il parle de l'immigration de travail et de l'appel aux médecins étrangers.
Il y a un vrai enjeu et défi dans notre pays, c'est de faire en sorte de former suffisamment de médecins, mais pour le reste, l'image qui consisterait à dire que des personnes qui travaillent ne seraient pas légitimes d'exercer leur travail sur le territoire français, non, vous savez, la France, elle est métissée, aujourd'hui, il y a un Français sur quatre qui a un grand-parent étranger, et moi, je suis fière de cette histoire, de ce mélange, de ce métissage, et on ne va pas le renier aujourd'hui.
Merci beaucoup, Manon Bry, d'avoir répondu à mes questions ce matin, et merci aussi
Et rendez-vous le 7 juin pour notre premier meeting de
Cédric,
campagne.
Le premier meeting de campagne qui sera donc à Saint-Denis, la ville de Bali Bagayoko. Il est 7h51. Vous disiez que vous aviez travaillé chez Oxfam. C'est le cas de notre voix de gauche tous les mardis, mais là c'est lundi. Et c'est donc notre voix de droite qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour à toi.
Louis, un jour de congé en cas d'inondation ou de canicule, c'est une proposition de Marine Tondelier, la patronne des Verts. Bonne ou mauvaise idée ?
Mauvaise idée, mais plus profondément, le problème, je pense, est pris à l'envers. Face au changement climatique qui est réel, il faut travailler bien plus et pas bien moins.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord, parlez-nous de ce concert géant sur la plage de Copacabana.
2 millions de personnes, une marée humaine face à l'océan et au milieu Shakira, la star colombienne qui a transformé Rio de Janeiro en gigantesque salle de concert. 2 millions, je vous le dis, derrière l'image, il y a l'organisation, sécurité, écran géant, captation. Copacabana confirme son statut de scène mythique et Shakira ajoute son nom à une jolie liste. Madonna, Lady Gaga, les Stones ont déjà vécu ce genre de concert. Allez, Shakira ne s'est pas arrêtée là ce week-end. Dans la foulée, elle a dévoilé un nouveau single. En fait, elle s'est invitée sur le nouveau titre de Zara Larsson et c'est sorti ce week-end, on écoute.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
7h54, le lundi, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
Des transports bloqués par une inondation, l'école d'enfants fermée à cause de la canicule. Marine Tondelier prend ses exemples, la patronne des écologistes, pour proposer un congé climatique 5 jours par an en cas d'événement météo extrême. Et c'est une proposition qui vous désespère, Louis ?
C'est le désespoir le plus total. Apolline, le monde avance dans l'IA sans nous, sans la France. Des guerres explosent partout. La Chine est pleinement éveillée. La Russie hurle et nous, on va inventer des jours fériés pour de fortes pluies. Il nous manquait que ça comme excuse pour pas bosser. Tiens, les crues et les canicules.
Vous exagérez pas un peu ? C'est un vrai sujet quand même.
Enfin,
il y a des gens qui sont bloqués.
Le vrai sujet, Apolline, c'est que la France va mourir si elle ne travaille pas davantage. Nous sommes appauvris, divisés, inefficaces, en retard, déindustrialisés. Et pendant ce temps-là, de quoi parle-t-on ? Que nous propose la gauche ? Que le climatologue de famille puisse bientôt vous faire un mot d'absence pour ne pas aller travailler ? Que l'hydrogéologue de quartier vous dise « Attention, il y a un risque d'inondation aujourd'hui, il vaut mieux rester à la maison ». Mais qui vérifie ? Qui contrôle ? Qui justifie ? Qui arbitre ? On fait comment ? On crée une brigade météo pour valider les arrêts de travail ? Un CERFA angoisse pluviométrique ? Une commission départementale du parapluie ? On est chez les dingues, Apolline. À ce rythme-là, il faudra bientôt un mot de l'astrologue pour prendre un métro le jour d'un Mercure rétrograde.
Vous trouvez ça caricatural ?
Mais c'est caricatural, c'est exactement ce qu'on nous propose. On se fera bientôt arrêter pour les intempéries, comme on se fait arrêter pour la grippe. Et après, demain, un congé pour les éclipses, pour les marées d'équinoxe, pour la lune rousse qui terrifiait nos grands-mères, pour les solstices, enfin ça
Le réchauffement climatique, c'est quand même pas de l'astrologie.
Mais je sais, mais les crues, les inondations, les tremblements de terre, les canicules, ça existe depuis qu'il y a des hommes.
C'est vrai.
La France de Louis XIV a survécu à l'hiver de 1709 où le vin gelait dans les caves. Nos grands-parents se sont relevés des sécheresses, des gels, des tempêtes sans congé spécial. À les entendre, on dirait que l'humanité vient de découvrir le ciel.
Non, quand même, vous ne niez pas le réchauffement climatique.
Non, mais bien sûr que non, Apolline, le réchauffement climatique est un fait. La science est claire, mais c'est précisément parce que je le prends au sérieux que cette proposition m'agace. Le climat, c'est un sujet générationnel. C'est un défi qui se gagne sur 30 ans, sur 50 ans, sur 100 ans, par l'investissement, l'innovation, l'adaptation des infrastructures, le nucléaire, les digues, la rénovation énergétique, les forêts. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? 5 jours de congé ? Qu'on soit clair, ceci n'est pas une mesure contre le réchauffement climatique. C'est une mesure contre le travail.
C'est-à-dire ?
Que la gauche ait le travail. Comme depuis toujours, elle est l'enrichissement, elle est l'effort, la discipline. Elle cherche toutes les excuses pour l'abolir.
Elle est le travail, c'est ça que vous dites ?
Elle est le travail ? Elle le déteste. Or, le travail, il n'est pas que nécessaire, il est libérateur. Face au climat qui change, Apolline, face aux menaces, face aux ennemis, face à l'incertitude de l'avenir, il nous faut travailler bien plus et pas moins.
Donc pour vous, le problème, c'est le rapport au travail. La transition écologique devrait se faire par le travail,
et par
pas contre le travail.
Et par quoi d'autre ? Il nous faut plus d'ingénieurs, plus de techniciens, plus de chantiers, plus d'entreprises, plus de capacité à reconstruire, à innover, à s'adapter. Tout cela coûte de l'argent. Tout cela suppose une économie qui produit. Or, permettez-moi de rappeler les chiffres, le salarié français a déjà 5 semaines de congés payés, 11 jours fériés, des RTT, des ponts, des arrêts maladie records. Il travaille en moyenne autour de 1490 heures par an, l'un des plus faibles taux du monde développé. Et on voudrait y ajouter 5 jours pour la pluie, c'est la réalité. Pardon Apolline, il faut le dire. Le boulanger qui ouvre à 4 heures du matin, l'artisan, le restaurateur ne pourront pas se permettre cette aimable fantaisie. Marine Tondelier légifère depuis Paris, depuis les plateaux télé, depuis les commissions. Elle ne sait plus ce que c'est qu'une caisse. Elle ne sait plus ce que c'est qu'un planning ou une marge. Seul le travail peut nous sauver, Apolline. La mollesse, par contre, nous tuera à coup sûr.
Le congé écolo est une aimable fantaisie, vous nous dites ce matin. Merci Louis Sarkozy. Demain, ce sera Cécile Duflot, la voix de gauche. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Vous l'entendrez, Donald Trump déploie 15 000 soldats ce matin. Il est 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h et il fait frais, Géraldine.
Il fait frais, il pleut beaucoup après un mois d'avril très sec. On va vraiment surveiller ces cumuls de pluie dans les prochains jours. En particulier aujourd'hui entre le Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est là qu'on va avoir les pluies les plus soutenues. Mais attention parce qu'il va pleuvoir pratiquement sur tout le pays avec des averses parfois orageuses. Orages violents sur l'Occitanie en particulier où on attend de la grêle. C'est plus calme vers la Bretagne et les côtes de la Manche. On aura quand même de belles éclaircies. Alors frais, oui, pas forcément dès ce matin, mais cet après-midi, on passera souvent sous les normales de saison. Il fera souvent 16 à 20 degrés, on ira jusqu'à 24 degrés en Corse. Il faudra attendre jeudi pour retrouver un temps un plus calme et plus doux.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
8h passées de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La trêve va-t-elle durer au Moyen-Orient ? On se pose la question ce matin. Donald Trump lance le déploiement de navires américains pour débloquer le détroit d'Ormuz malgré la menace de Téhéran qui voit en cette action une violation du cessez-le-feu en vigueur. Jean-Luc Mélenchon, officiellement candidat à l'Élysée en 2027, l'insoumis se lance pour la 4e course à la présidentielle. Et puis il y aura encore du monde ce matin près de Bourges. 11 000 fêtards présent sur les lieux d'un technival qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ce week-end.
Donald Trump veut débloquer le détroit d'Ormuz.
Permettre à des bateaux de pays tiers bloqués depuis 2 mois de franchir ce détroit. C'est l'ambition de Donald Trump qui a donc dévoilé les contours de son projet. Liberté, un geste humanitaire, dit le président américain. Romain Houg, vous nous dites ce matin en quoi consiste cette opération qui doit débuter dans quelques instants.
Oui, c'est une opération d'envergure à laquelle doivent participer pas moins de 15 000 soldats américains, une centaine d'aéronefs, drones, avions et des navires de guerre, précisément des destroyers lance-missiles qui vont donc escorter au travers du détroit d'Ormuz des navires commerciaux de pays, je cite Donald Trump, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. À la fin du mois dernier, 913 navires commerciaux étaient présents dans le Golfe, dont 270 pétroliers et une cinquantaine de navires gaziers. Des officiels américains cités par le média Axios ont donné plus de précisions. En fait, ce ne serait pas vraiment une escorte telle qu'on l'imagine. L'US Navy resterait à proximité pour défendre les navires en cas d'attaque iranienne, mais aussi pour les guider, leur dire quelle route maritime emprunter pour éviter d'éventuelles mines.
Une opération, Romain, qui n'est pas au goût de l'Iran.
Oui, les Iraniens ont immédiatement réagi et prévenu que toute intervention américaine serait perçue comme une violation du cessez-le-feu. Mais de son côté, Donald Trump, lui aussi, se fait menaçant. Si cette opération venait à être entravée par l'Iran, eh bien, cela devrait malheureusement, dit-il, être traité par la force.
Et réaction à l'instant d'Emmanuel Macron qui appelle à une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis, précisant que la France ne prendra pas part à l'opération américaine. L'annonce de Donald Trump, en tout cas, n'a pas fait baisser les cours du pétrole ce matin autour des 110 dollars le baril, avec des prix à la pompe toujours plus hauts. Les distributeurs de carburant ont d'ailleurs rendez-vous ce matin à Bercy, qui tient à vérifier que les prix à la pompe respectent bien les cours du marché. Pas question pour l'heure d'être généralisé. Pour autant, le gouvernement va venir en aide aux grands rouleurs qui pourront, dès le 27 mai, réclamer leurs indemnités carburant, un chèque de 50 euros, Caroline Renaud, sous condition.
Pour obtenir ce coup de pouce, il faudra remplir un formulaire disponible dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Vous aurez 2 mois pour y renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, celui de votre carte grise et enfin l'immatriculation de votre voiture. C'est aussi là que les grands rouleurs devront certifier qu'ils remplissent bien les conditions de distance parcourue, soit plus de 15 km par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail, ou plus de 8000 km par an. Et puis il y a aussi des conditions de revenus, ne pas dépasser les 16 880 euros de revenus fiscal de référence par part en 2024. Si vous êtes éligible, une fois le formulaire rempli, l'indemnité sera versée directement sur votre compte bancaire sous 10 jours.
Un candidat de plus pour la présidentielle. Ils sont une dizaine sur la ligne de départ auquel s'ajoute désormais Jean-Luc Mélenchon, loin d'être une surprise. L'insoumis de 74 ans a confirmé hier soir aux 20h de TF1 sa 4e candidature à la présidentielle. Cyprien Pézeril du service politique nous rejoint à un an du scrutin. Jean-Luc Mélenchon se positionne. Cyprien, à l'heure où la gauche semble plus divisée que jamais.
Oui, chez nous c'est carré, insiste depuis hier soir Jean-Luc Mélenchon, pour se distinguer de ses éphémères partenaires socialistes et écologistes qui eux n'arrivent pas à choisir leur candidat et ne s'accordent pas non plus sur la manière de le faire. Nous on avance comme des dingues alors que les autres sont en train de pédaler dans la semoule. Fanfaronne un mélenchoniste qui participait hier à une première réunion de campagne. Objectif, comme en 2022, viser le vote utile à gauche et pas question d'une quelconque candidature commune ou d'une participation à une primaire. Jean-Luc Mélenchon, persuadé que le match se jouera entre lui et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est persuadé aussi de l'emporter, malgré ce que prédisent les sondages, malgré aussi des polémiques en série. Une écume acide qui ne nous aide pas, admet pourtant un intime du leader insoumis. Mais pour l'heure, l'objectif est de se montrer en ordre de bataille. Présence renforcée dans les médias cette semaine, des déplacements, y compris à plusieurs milliers de kilomètres de Paris dans les cartons. Et un premier meeting le 7 juin à Saint-Denis, ville désormais gérée par un insoumis, pour développer le concept de Nouvelle France.
Ils sont 11 000 personnes toujours présente ce matin au Technival de Bourges. C'est ce que nous dit sur RMC Loïc Quévran. Le député Horizon du Cher précise que 2500 personnes ont été verbalisées en marge de l'événement, avec pour conséquence la suppression de 8 lignes de transport scolaire pour des raisons de sécurité ce matin dans le Cher. Ils étaient 150 festivaliers dans le Var pour une autre free party. Des événements musicaux illégaux dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez veut sévir, mieux réprimer ces rassemblements. Pour autant, Pierre Bazin, les capacités des autorités à empêcher ces free parties s'avèrent complexes.
Oui, même si les services de renseignement y travaillent, selon le ministre de l'Intérieur, identifier les organisateurs et le lieu de rendez-vous s'avère très compliqué, puisque sur les messageries cryptées qui facilitent l'organisation, mobilité et discrétion sont les règles d'or. Et puis parfois, des stratagèmes sont même mis en place par les organisateurs qui indiquent, jusqu'à la dernière minute, un faux point de rendez-vous pour prendre de court les gendarmes. Laurent Nunez admet la difficulté des autorités à faire face à l'implantation de ces événements.
Quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui débarquent en échangeant pour choisir le lieu où ils vont s'implanter, que sur des réseaux qui sont chiffrés, Signal, Telegram, qui le font de manière extrêmement organisée, qui arrivent par milliers, qui commencent par installer les mursons pour qu'ensuite les gens arrivent, c'est très compliqué à endiguer.
Dans les cas où les gendarmes ne parviennent pas à empêcher l'événement, une source sécuritaire nous précise que l'enjeu est alors de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame, en facilitant notamment l'accès des secours au site ou en empêchant l'arrivée massive de produits stupéfiants.
L'impatience ce matin à deux jours du match retour de Ligue des Champions Bayern Munich PSG après le spectacle du match aller et une victoire 5-4, les Parisiens ont rendez-vous en Bavière mercredi soir pour le dernier acte de cette demi-finale, 21h sur RMC, moment très attendu par les supporters du PSG forcément, mais ils ne sont pas seuls. Valentin Germain, c'est toute la France du foot qui se prépare à ce choc.
Devant le stade de la Beaujoire à Nantes, Jean-Christophe mange son sandwich. Il est supporter de Marseille, mais attend mercredi soir avec impatience.
Le dire, ça me fait un peu mal. Clairement, c'est un rendez-vous obligatoire. Avec mon fils, juste là, qui a vu le match aller, je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'avais vu. On peut pas louper le match retour. On sera là quand même pour les supporter, parce que c'est un club de France.
À Metz, relégué en Ligue 2, Samuel a déjà prévu son programme.
C'est barbecue à la maison, et puis grosse fiesta. PSG, avec leur pouvoir d'attaque, pourra se qualifier.
D'autant que les joueurs cadres parisiens se sont reposés ce week-end face à Lorient. Le capitaine breton Laurent Abergel est né à Marseille mais avoue son admiration.
C'était magnifique, on allume la télé pour voir ça. C'est sûr que t'as envie de revoir le même spectacle. Pas supporter mais passionné, ils sont trop forts. J'espère qu'on va vivre un beau match.
La France du foot attend donc ce rendez-vous, mais pas que, assure le journaliste espagnol Lucas Garcia qui travaille pour la Radio Nationale.
Ici les gens attendent presque plus le PSG Bayern que le match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid qui est le club espagnol. C'est un football différent, on en parle beaucoup en Espagne, c'est spectaculaire.
Et vu la qualité montrée par les deux équipes, personne ne se risque à donner un favori.
Bayern PSG, rendez-vous mercredi sur RMC, comme la victoire de Lyon 4-2 face à Rennes que vous avez suivi sur notre antenne hier soir en Ligue 1. Troisième, les Lyonnais font un pas de plus vers la qualification en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe et un doublé dans le viseur de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est du rugby. Les Girondins défendront leur titre à Bilbao le 23 mai prochain face au Leinster après avoir écarté Basse en demi-finale de la Champions Cup 38-26 hier.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires. Économie et carburant ce matin. Emmanuel Le Chip, bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Finalement, c'est donc vers Total que se tourne le gouvernement pour tenter d'alléger la facture du carburant des Français. Il demande donc à Total un plafonnement généreux des prix à la pompe. Ça
veut dire quoi ? Oui, une petite pièce, monsieur Pouyamé, s'il vous plaît.
C'est exactement ça.
Bah oui, parce que pour le moment, Sébastien Lecornu n'a pas d'autre solution s'il veut s'en tenir à son quoi qu'il n'en coûte rien budgétaire que de demander un geste à Total. Alors, il a bien essayé de pointer du doigt les distributeurs avec une étude un peu discutable sur les hausses de leurs marges brutes, mais en réalité, ce sont les marges nettes qui comptent et elles sont restées très faibles. Non, le seul acteur sur lequel le gouvernement a finalement une influence, c'est Total Énergie, avec toujours les épée de Damoclès de cette taxe sur les super profits après l'annonce des bénéfices spectaculaires du premier trimestre.
Est-ce que c'est une solution satisfaisante ?
Bah non, parce qu'en fait, ce décalage entre les prix affichés par Total et ceux des concurrents désorganise complètement la filière de distribution des carburants. Et ça ne fait pas l'affaire au Total sur le pouvoir d'achat, le compte n'y est pas. Alors, est-ce que le gouvernement va lâcher sur les baisses de taxes ? Parce que finalement, c'est la question que tout le monde se pose. Il faut rappeler qu'il est celui en Europe, avec le Royaume-Uni, qui a le moins fait pour alléger la facture énergétique des Français. C'est ce que nous a montré l'Institut Bruegel dans une étude la semaine dernière. Le problème, c'est que, oublions cette idée de cagnotte liée aux taxes sur les carburants, vu que, je vous le rappelle, une partie des taxes sur les carburants est indexée sur les volumes vendus et pas sur les prix. Or, les baisses de consommation, Apolline, sont spectaculaires. Sur le gazole, on est à presque moins 20% de consommation au mois d'avril par rapport à avril 2025. Sur l'essence, le sans-plomb, on est à moins 14% sur un an. Donc, c'est pas là qu'il faut aller chercher des sous. En plus, on l'a vu, la croissance cale, 0% au premier trimestre. Ça veut dire qu'on fera pas la prévision de croissance sur 2026 et que du coup, il y aura encore plus de déficit que prévu. Donc, si le gouvernement doit en arriver à finalement baisser les taxes, ce sera après avoir aidé de nouveaux secteurs, on pense aux taxis, aux VTC, après avoir élargi les conditions d'accès à la prime carburant dont on pourra profiter à partir de la fin mai. Donc à la Saint-Glinglin, je vois dans vos yeux.
Oui, parce que franchement, c'est ce que pensent ceux qui continuent à faire ceux qui ne peuvent pas se passer de faire leur plein.
Après, avant d'en arriver à la baisse des taxes, il aura fini par lâcher sur les fameux certificats d'économie d'énergie qui, rappelons-le, ne coûtent rien et ça représente 15 centimes par litre. Donc, grosso modo, la baisse des taxes éventuellement avant le mois de juin et peut-être même juillet, C'est même pas en rêve.
C'est assez peu probable. Les prix du jour, comme chaque matin sur RMC.
Alors, eh ben, le gazole, la décrue continue quand même. Hein. On est à 2,157 le litre. C'est quand même 4 centimes de moins en une semaine. Alors que sur le samplon 95, on est plus cher qu'il y a une semaine. On est à 2,01. C'est 3 centimes de plus qu'il y a une semaine. Alors, le pétrole, bon, bah, on a eu une bonne nouvelle cette nuit. Donc, du coup, paf, on est retombé à 101 $ le baril, alors qu'on était monté à plus de 120 la semaine dernière. Mais bon, Donald Trump a annoncé l'allègement du blocus américain cette nuit. Et puis sur le gaz, on est stable autour de 45 € le mégawattheure. Ça a augmenté un peu depuis les points bas de mi-avril à 40 €, mais on est très loin du pic de 60 € atteint au début du conflit.
Merci Emmanuel, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et Anthony nous appelle au 32-16. Je voudrais qu'on puisse recueillir votre réaction parce que vous êtes nombreux à réagir à cette énorme Technival près de Bourges où il y avait 20 000 jeunes, 20 000 fêtards. Comment vous réagissez, Anthony ?
Bonjour, Pauline. Comme je disais, je suis pourtant fan de la musique électronique pour la liberté d'expression. Et j'étais pourtant à côté de la free party, mais ce genre d'événement n'est pas trop pour moi. Je préfère mettre, plutôt que 135 € d'amende, payer un billet pour un vrai festival avec des organisateurs. Après, je sais que ce n'est pas du tout leur manière d'être et qu'ils veulent rester comme ça, quoi qu'il arrive. Je respecte
aussi. Vous allez dans les festivals, Anthony ?
Oui, je préfère un festival où il y a un vrai camping, des douches, des sanitaires, des vraies scènes, pas de bagarres, pas de vol. Me faire fouiller 30 fois dans le week-end, ça ne me dérange pas. Je préfère ce genre d'événement.
Oui, en fait, c'est aussi vraiment une question. C'est-à-dire, vous aimez la musique, mais pas dans ces conditions-là. Au-delà de votre goût personnel, est-ce que vous considérez que organiser ces rencontres illégales qui ont quand même des conséquences, hein, on avait le député Duchère qui était donc mon invité à 7h10 ce matin, qui disait que ce matin, il y avait beaucoup d'élèves qui ne pourraient pas aller à l'école parce que bah, les bus ne peuvent pas passer, qu'il y aurait plein d'agriculteurs qui ne pourraient pas faire leur récolte, et puis surtout les conséquences militaires, puisque c'est un terrain militaire, avec des tests, notamment des canons César, qui ne vont pas pouvoir avoir lieu. Sur cet aspect-là, Anthony, vous en pensez quoi ?
Eh ben justement, si c'est un terrain militaire, je ne comprends pas comment il faudrait rembourser des agriculteurs qui n'ont pas le droit de cultiver ces champs.
Alors il y a une partie, hein, parce qu'ils étaient sur ils sont passés en fait, ils ont traversé les champs pour y aller.
Dire. Alors je sais pas.
Ça vous choque pas tant que ça.
Quand c'est dans un terrain privé, ça va pas. Quand c'est dans un hangar, ça va pas. Quand c'est dans un terrain public, ça va pas. On n'arrivera jamais à trouver un terrain d'entente et ils voudront toujours leur liberté d'expression. Ça va être dur à réprimer. Je sais que la loi est de plus en plus dure. Ils vont passer de 135 à 1500 € d'amende pour les participants.
C'est évoqué, mais pour l'instant, même les 135, ils sont pas vraiment appliqués. Hein. Donc, on n'y est pas.
Je préfère payer un billet pour un vrai festival.
Merci beaucoup, Anthony, pour votre réaction. N'hésitez pas, comme Anthony, vous connaissez le chemin. Le 32-16, il est 8h15.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, ce sera le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est la vigie de l'économie française, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Quelles conséquences pour notre économie au 66e de jour de la guerre au Moyen-Orient? La croissance est à l'arrêt, les emplois sont en berne et l'inflation remonte. Le verdict donc du gouverneur de la Banque de France, c'est à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après ça, comme chaque matin, pour notre plus grand bonheur, face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50 sur RMC. Il est 8h15.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h18 sur RMC. Arnaud Demanche a pris quelques jours et il a bien mérité quelques jours de repos. Mais il est quand même avec nous parce qu'on en a gardé le meilleur. Écoutez, Arnaud Demanche, tiens, qui nous parlait de cinéma.
Dites donc, Apo.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends pas ?
Quoi.
Je lisais les cahiers du cinéma hier. Vous allez devenir actrice ? Eh oui. Apo va jouer dans Baron Noir, la série de Canal+.
Ouais.
C'est une nouvelle carrière qui commence. J'espère que vous aurez un César pour ce rôle.
Ah bah j'espère aussi.
Remis par Dominique Besnéard lui-même. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce César du meilleur espoir féminin à Apolline de Malherbe, merveilleuse, radieuse, pour son rôle d'Apolline de Malherbe. Là, j'ai jamais vu quelqu'un jouer Apolline de Malherbe aussi bien qu'Apolline de Malherbe. Alors Apo, j'ai un projet à te proposer.
Oui.
Alors c'est disruptif, hein. Attention, c'est pas Baron Noir, c'est un projet pakistanais.
Ah.
C'est une métaphore de la crise du détroit d'Hormuz et ses futurs palmes d'or à Cannes. Tu jouerais une gardienne de puits dans une steppe désertique en Azerbaïdjan qui surveille un puits désaffecté après l'AVC du précédent puisatier interprété par Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, tu vas au puits, tu t'assois, tu tournes une valve et tu regardes cette eau qui ne coule pas. Alors tu interroges, mais cette fois du regard intérieurement, le monde et l'absurdité bureaucratique. Tout ceci dure 23 ans et un jour, une fonctionnaire du ministère de l'économie américaine. Alors pour la jouer, j'ai pensé à Edwige Chevrillon de BFM Business, oui. la femme frontale directe, en même temps la femme fleur, la femme fruit. La fonctionnaire t'annonce « Notre gouvernement veut rouvrir le puits et le contrôler ». Alors tu ne réagis pas, mais imperceptiblement quelque chose s'est fissuré.
Ah oui.
Et tu développes une relation silencieuse avec le vide du puits.
Oui,
tu lui parles sans mots et le vide ne répond pas.
Ah.
Mais par moments, il semble respirer.
Ah,
tu poses
bon.
Alors ta première question. Pourquoi? Et après, on se doute, il y en aura beaucoup d'autres. Ça s'appelle le détroit intérieur, celle qui veillait sur l'eau absente. Tu vas cartonner.
Moi, je veux
voir ça.
Les lignes d'urgence pour les marins bloqués dans le détroit d'Ormuz sont submergées d'appels.
C'est vrai. Alors bon, si c'est saturé partout ailleurs, en cas d'urgence, ils peuvent appeler RMC. Il y aura toujours quelqu'un qui sera ravi de leur parler à notre standard. Ah, un auditeur qui nous appelle. Salut et bienvenue à la libre antenne d'RMC Gold, la radio musicale d'RMC pour tous les fans de Gold. On vient d'écouter à l'instant Capitaine abandonné, je crois. Et tu voulais réagir à cette chanson, cher auditeur.
Non, pas du tout, mon bateau est coincé dans le détroit d'Ormuz et tout le monde s'en fout.
Mais non, attends, t'es vraiment un capitaine abandonné? C'est dingue, alors on va se la remettre.
Capitaine abandonné.
Qu'est-ce que vous racontez? Vous appelez les secours, prévenir l'armée.
Attends, tu peux nous en dire un peu plus sur la chanson? Comment tu l'as composée, capitaine abandonné?
Mais je suis pas musicien, merde, je suis capitaine d'un pétrolier, j'appelle du détroit d'Ormuz.
Et t'es en tournée au Moyen-Orient avec Desireless, ça c'est génial.
Je peux parler à un militaire.
Bon, on te bascule sur RMC. RMC, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin.
Bonjour, je suis capitaine de pétrolier.
Eh ben bravo, vous avez gagné un plein d'essence.
J'en fous, j'en ai plein.
Bon, appelez ailleurs les mecs. C'est plus prudent. Bon courage.
Le meilleur d'Arnaud Demange. Il est 8h22 et nous allons partir. Attention, pour féliciter notre gagnant du jour, on prend la direction de Pénautier dans l'Aude. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Ben, félicitations Christophe.
Merci beaucoup, la journée commence très bien.
La journée commence très bien. Vous êtes fonctionnaire territorial dans l'Aude. C'est vous qui avez gagné le séjour Bellambra d'une valeur de 2000 euros. Bravo Christophe, vous aviez pris des vacances récemment?
Non, pas encore.
Pas encore, bah ça tombe bien, vous aviez bien fait de nous attendre. Vous savez que vous avez donc gagné un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez avoir le choix entre 40, 45 même destinations dans les plus beaux endroits de France. Est-ce que vous savez si vous avez envie d'aller à la mer ou à la montagne?
Alors là, pour l'instant, aucune idée. On n'a pas encore réfléchi.
Vous êtes encore juste les étoiles dans les yeux. Vous partiez,
voilà,
vous partiez bosser là?
C'est ça, oui. En allant au travail.
Eh bien, félicitations. Et on peut déjà vous dire bonnes vacances. Félicitations, Christophe. Comme Christophe, vous jouez et on vous offre toute la semaine vos vacances.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Il est 8h23 dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est François Villeroy de Gallo. François Villeroy de Gallo, qui est donc le gouverneur de la Banque de France. C'est véritablement son verdict sur l'économie française. Est-ce qu'on peut encore espérer une croissance cette année face au risque d'inflation et au 66e jour de guerre? Donc ne manquez pas François Villeroy de Gallo dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France et vous l'êtes d'ailleurs depuis 2015 et encore pendant un mois. Vous avez beaucoup de recul désormais sur l'économie française. On va y revenir et rien ne va plus, on peut le dire, pour l'économie française. L'INSEE a donc confirmé ce que tout le monde avait déjà comme intuition. L'économie française est littéralement à l'arrêt. Croissance nulle pour les premiers mois de l'année. Et c'est aujourd'hui que vous vous adressez au président puisque vous lui adressez votre dernier bulletin de santé de l'économie française, la lettre annuelle au président de la République. On va y revenir, mais justement, comment ça va, docteur, en fait ?
Alors, c'est surtout l'incertitude, Apolline de Malherbe. Moi, je ne dirais pas que rien ne va plus. Je dirais qu'aujourd'hui, on est face à un choc sans précédent. Ce conflit en Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz, la montée, évidemment, du prix de l'énergie. Et nous ne savons pas quels vont être exactement les effets économiques. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Ça dépend de la stratégie américaine, notamment, qui est très imprévisible. Et donc, nous avons publié 3 scénarios différents au mois de mars. Les effets sont tous dans le même sens, malheureusement, c'est-à-dire plus d'inflation, moins de croissance.
Mais à l'ampleur, plus ou moins grand niveau.
Exactement. L'ampleur des effets dépend du scénario dans lequel on se trouvera.
C'est quoi ? Au mieux, c'est quoi ?
Absolument.
En termes de croissance.
D'abord, ce que nous avons dit au mois de mars, et que je redis ce matin, c'est qu'il ne faut pas tout parier sur le scénario le plus favorable, le scénario qu'on avait appelé de base. Il y a aussi un scénario défavorable, puis un scénario très défavorable. Au pire, pour répondre à votre question, on a d'abord une poussée d'inflation en 2026, cette année. Alors l'inflation, selon les scénarios, se situerait entre un peu moins de 2% en moyenne annuelle, ou plus de 3%. Mais ensuite, l'inflation reviendrait vers la cible de 2%.
Quand vous dites ensuite, ça veut dire après un an ?
Ça veut dire 2027-2028. La durée exacte dépend du scénario dans lequel on se trouve. Ça dépend à combien monte le prix du pétrole et combien de temps ça dure.
Mais alors attendez, je vous arrête un instant. Déjà, ça veut dire que le plancher est plus haut que la prévision que vous en aviez faite, puisque initialement, on avait parié sur 1,8% d'inflation, me semble-t-il, pour l'année. Et vous dites que ce sera au moins 2.
Non, on avait moins que ça sur la France. Parce que c'est un des atouts de la France. Il faut quand même être lucide aussi sur notre force. On en a, bien sûr. C'est que notre inflation est basse. C'est même la plus basse de la zone euro. Donc on partait d'une inflation qui était autour de 1. On devrait aller vers 2% cette année. Peut-être plus si on est dans les scénarios défavorables. Mais ensuite, on revient vers les 2%. Et puis l'autre question, c'est la croissance. Alors, dans tous les scénarios que nous publions, on garderait quand même une croissance positive cette année. Alors on est entre 0,9 dans le cas le plus favorable ou 0,3 dans le cas le plus défavorable, on verra. Et la France échapperait à la récession. Donc ça, c'est des moins mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pas se raconter l'histoire. Ce choc qui arrive de l'extérieur, c'est évidemment un élément négatif, pas seulement pour l'économie française, pour l'économie européenne et l'économie mondiale.
Vous dites le mot choc, on va y revenir, choc pétrolier ou non, qu'est-ce qu'il faut en entendre ? Mais je m'arrête un instant sur cette prévision de croissance. Je rappelle que le budget sous lequel nous sommes aujourd'hui est un budget qui avait été fait avec une prévision de croissance de 0, déjà de 1, qui a été rebaissé à 0,9. Et au fond, ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que 0,9, c'est le scénario le plus optimiste.
C'est probablement le scénario favorable. Je crois qu'il est trop tôt pour dire ce que ça va donner sur le budget. Vous savez que l'objectif du gouvernement, c'est un déficit de 5% cette année. C'est pas un effort énorme par rapport à l'année dernière, puisqu'on a terminé à 5,1.
Mais pardon, c'était déjà pas un effort énorme, mais dans un contexte où on espérait une croissance...
Voilà. Je crois qu'il faut tenir ce 5%. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé des mesures d'économie sur d'autres dépenses, moins prioritaires. Et puis, si vous me permettez de prolonger sur le budget, ça fait partie des inquiétudes des Français.
Et ce sont les discussions aujourd'hui des politiques.
La dette qui est beaucoup trop élevée, il faut qu'on ait l'objectif de revenir à 3% de déficit d'ici 2029. C'est notre engagement européen, mais surtout, ce chiffre de 3%, c'est pas magique. C'est celui qui nous permettrait enfin de diminuer le poids de la dette par rapport au PIB, par rapport à la taille de l'économie française.
Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est une nécessité. Et alors, quand nous regardons plus largement ce que nous faisons dans cette lettre au président de la République, la France a plus de déficit que ses voisins, plus de dettes. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus de dépenses publiques. Nous avons à peu près le même modèle social européen que nos voisins. Moi, j'y crois. C'est un bon modèle social. Simplement, il nous coûte beaucoup plus cher que les autres. Donc, il faut faire un effort sur l'efficacité de toutes nos dépenses.
Et ça veut dire qu'il va falloir aussi faire quelques sacrifices ?
Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. En tout cas, nous ne pouvons pas tout financer. Et regardons nos voisins européens. Vous savez, ils ont les mêmes politiques que nous et souvent, ils arrivent à des meilleurs résultats en dépensant moins. Ça, c'est très pratique. C'est pas politique ou idéologique.
Vous avez parlé d'un choc. Vous avez dit plusieurs fois le mot choc. Est-ce que vous diriez aussi choc pétrolier?
Alors, le choc pétrolier, ça renvoie pour... les vénérables de ma génération, Apolline, ça renvoie aux années 70, quand on avait connu en 1973, puis en 1979, de hausses très fortes et très durables des prix du pétrole. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Évidemment, plus les choses se prolongent, plus on se rapproche d'un choc pétrolier. Mais tout va dépendre de la durée du conflit et donc de variables politiques et militaires.
On se rapproche d'un choc pétrolier, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui au 66e jour de guerre. Michel-Edouard Leclerc, par exemple, dit c'est pas de si tôt qu'on retrouvera les prix d'avant. Est-ce qu'on peut même imaginer qu'au fond, les prix du carburant actuel puissent devenir le nouveau normal?
Je vais vous dire avec simplicité, je ne sais pas. Et je crois que
mais à quoi vous servez?
Non, si vous savez, Apolline de Malherbe, prédire l'avenir de façon certaine dans ce monde où nous vivons, vous êtes extrêmement forte.
Non.
Ce que je sais.
Non.
C'est pour ça que nous publions trois scénarios différents. Et, dans au moins deux des trois scénarios, le prix du pétrole rebaisse d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine. On va voir. Je crois néanmoins que de toute façon, ça c'est un message très important de notre part, faut évidemment accélérer la transition énergétique.
C'est ça la réponse.
Nous ne pouvons pas vivre avec tous les 5 ans, tous les 10 ans, une crise au Moyen-Orient ou une crise pétrolière liée à l'invasion de l'Ukraine qui nous prend, en otage notre économie. Donc il faut réduire notre dépendance. Ça veut dire les énergies propres. C'est d'ailleurs bon pour le climat. Il se trouve que la France est plutôt en avance là-dessus grâce à l'énergie nucléaire. Mais il faut évidemment aller plus loin dans cette direction. C'est au-delà des réponses de très court terme, il faut se donner des caps.
Alors il y a des caps et il y a la question du long terme. Mais dans le court terme, quand on regarde nos voisins, l'Allemagne par exemple, à partir d'aujourd'hui, baisse de 17 centimes d'euros par litre après l'Espagne. Ça sera au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Un coup de pouce que les Allemands font, qui est estimé à 1,6 milliard d'euros. Et ici, en France, on espère juste que Total va faire le boulot.
Oui, alors là, je crois que c'est un des sujets où il faut pas forcément aller chercher l'inspiration chez nos voisins. D'abord parce que d'expérience, ça n'est pas des mesures très efficaces, y compris pour une raison très simple, c'est que ça pousse, ça encourage la demande de carburant et donc ça contribue à la hausse des prix. Ça fait le contraire de ce qu'on voudrait. Et puis, il se trouve que nos voisins ont deux différences avec la France. Ils ont plus d'inflation, on le disait tout à l'heure. La France est un peu mieux protégée par son énergie nucléaire. Et puis deuxièmement, ils ont plus de moyens budgétaires. Nous n'avons plus d'argent pour financer des mesures générales. Donc il faut prendre des mesures ciblées, temporaires, sur les
rouleurs. François Villeroy de Galhau, on peut le tourner dans tous les sens. On n'a plus les moyens.
On n'a plus les moyens, en tout cas, de prendre des mesures générales qui, par ailleurs, sont assez inefficaces.
Toutefois, il y avait des mesures efficaces, on devrait de toute façon pas les moyens de les prendre.
Ah, alors, le gouvernement a pris des mesures ciblées sur ce qu'on appelle les gros rouleurs, certaines professions. Je crois que c'est important aussi qu'elles restent temporaires. Qu'est-ce qui s'est passé après 2022, le précédent choc lors de l'invasion de l'Ukraine? On a pris des mesures, puis on n'a pas réussi à retirer ces mesures favorables quand le prix du pétrole a baissé. Alors ça coûte beaucoup trop cher.
Total, à qui le gouvernement demande de faire plus, de continuer, je cite, un plafonnement généreux. C'est soit ça, soit une taxation de leurs super profits, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça l'équation aujourd'hui?
Oui, alors la Banque de France n'est pas dans la discussion avec Total. J'ai d'ailleurs vu que l'entreprise avait pris un certain nombre d'engagements sur le diesel à l'occasion des ponts. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une négociation. On a la chance d'avoir une grande entreprise énergétique française.
Mais vous vous étiez exprimé sur la question justement de la taxation, des taxations exceptionnelles qui sont de moins en moins exceptionnelles puisqu'elles sont reconduites d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il faut pas hésiter effectivement à mettre à contribution des très grosses entreprises quand on voit les profits de Total?
Je crois que c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Si ça devait être mis en place, c'est de la même façon que je le disais tout à l'heure, ciblé sur certains profits liés à la crise énergétique et temporaire quand cette crise énergétique sera résolue.
Croissance, inflation, choc pétrolier ou non, trop tôt pour le dire. Emploi, il y a un ralentissement aussi des promesses d'embauche. Quand même, le scénario, je veux bien qu'il y ait des scénarios moins pessimistes que les autres, mais il y en a très peu qui soient vraiment optimistes.
Je me méfie toujours des mots optimistes et pessimistes.
Alors, dites-les vôtres.
Ce que nous essayons d'être, c'est d'être lucides. Dans cette lettre au président de la République, on fait une photo sur 15 ans de l'économie française. C'est très important à côté de ce que nous venons de dire sur l'urgence, parce qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Nous disons, au-delà de l'urgence, plus que jamais, élargir l'horizon, faire un pas de côté pour faire un bilan de santé aussi objectif et complet que possible de l'économie française. Or, il se trouve justement sur l'emploi, depuis 15 ans, ça c'est un vrai progrès que nous avons fait collectivement. Il y a aujourd'hui un taux de chômage qui reste trop élevé, hein, il est entre 7,5 et 8%.
Et il remonte.
Mais, et il remonte légèrement. Un peu. Mais dans les précédentes crises, Apolline de Malherbe, on avait un taux de chômage qui était supérieur à 10%. Je ne sais pas si vous savez, nous avons nous-mêmes été surpris par ce chiffre. Combien d'emplois l'économie française a créé depuis 2010? Parce qu'on a pris ce recul sur 15 ans. Près de 4 millions d'emplois nets, les créations moins les suppressions. 3,9 exactement. Le taux de chômage a beaucoup baissé. Le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de la population au travail, a monté. Ça, c'est des choses qui vont dans le très bon sens. Et l'emploi résiste plutôt bien aujourd'hui au ralentissement de la conjoncture.
Avec le recul, est-ce que vous estimez que la France a fait effectivement les changements qu'elle devait faire sur ses structures, son économie, le travail dont on dit en permanence qu'il ne paye pas suffisamment? Est-ce que ça, ce sont des choix politiques qui n'ont pas été faits?
Alors, pas assez. Et je précise, quand on regarde depuis 2010, nous enjambons les cycles politiques, il y a eu divers présidents, divers gouvernements, il ne s'agit pas de distribuer des bons ou mauvais points à tel ou tel. Mais ça correspond à un cycle économique, 2010 c'est le début du temps des crises, en ultra résumé. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que sur la croissance, à chaque fois on se compare aux pays européens, la performance de la France, elle se juge en comparaison aux autres qui sont dans la même situation. Sur la croissance, nous avons une position intermédiaire, c'est-à-dire que nous avons fait comme la moyenne de la zone euro. Ni plus mal, ni mieux. Il y a eu un point positif, c'est ce que nous disions à l'instant sur l'emploi, puis un point négatif où clairement on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est les finances publiques. C'est-à-dire que nous avons beaucoup trop de déficits et de dettes comparés à nos voisins.
Quand vous regardez ce qui s'est passé en ce week-end de pont autour du 1er mai, est-ce que c'est pas le symptôme d'une sorte de cacophonie ou de difficulté de la France à prendre des décisions? On a d'un côté effectivement ouvert l'idée que finalement on pouvait travailler le 1er mai. Le Premier ministre lui-même a presque encouragé l'illégalité, puisqu'il a encouragé certains boulangers à ouvrir, à travailler, alors que des contrôleurs disaient bah non, c'est illégal, à faire travailler leurs salariés. Est-ce que c'est pas le problème, le symptôme de ces difficultés à trancher pour la France?
Vous me permettez une note personnelle, Apolline de Malherbe. Je crois que c'est surtout le symptôme du fait que notre débat se met sur de multiples polémiques de l'instant.
Vous, avec le recul des 15 ans, vous vous dites, en fait, cette histoire du 1er mai, des fleuristes et des boulangers...
C'est pas la question décisive pour l'avenir de l'économie française. Or, on le disait à l'instant, sur le travail et sur l'emploi, nous avons fait des progrès. Il y a eu le pacte...
Mais est-ce que c'est parce que vous bottez en touche?
Non, c'est pas du tout pour botter en touche. Mais que les fleuristes ou les boulangers travaillent le 1er mai, dans des conditions clarifiées... Très bien, mais c'est pas ça qui va faire une immense différence pour l'économie française.
Mais vous parlez d'incertitude. Vous avez commencé avec le mot d'incertitude en disant que le plus difficile pour pour tous ceux qui travaillent en France, c'est l'incertitude. Quand on voit effectivement qu'en fait on ouvre sans être sûr qu'on a le droit d'ouvrir, est-ce que c'est pas véritablement le symptôme de cette incertitude?
Bien sûr, mais ce que je dis, c'est que c'est un problème relativement limité. Tout ce que nous pourrions faire, par exemple, pour développer encore l'apprentissage ou pour améliorer l'efficacité des dépenses d'éducation et de formation professionnelle. Ça, c'est un élément assez important de notre bilan. C'est que quand on se compare aux autres, nous dépensons à peu près autant sur l'éducation et la formation professionnelle, mais l'efficacité de ces dépenses est plutôt moins bonne qu'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui changerait vraiment l'économie française. Ce qui a été fait sur un certain nombre de réglementations du travail, la loi El Khomri en 2016, les ordonnances Pénicaud en 2017, a beaucoup réduit l'incertitude justement, et ça je crois que ça a facilité l'emploi, donné envie aux entreprises d'embaucher. Donc nous avons fait des progrès. Encore une fois, la question du 1er mai, elle est très franco-française, elle est de très court terme, pourquoi pas, mais élargissons l'horizon et puis regardons les meilleures solutions de nos voisins.
Quels sont vos regrets? En avez-vous? Vous, dans un mois, vous quitterez cette fonction. Est-ce que pas forcément de vos outils ou non, mais sur le regard que vous avez porté jour après jour pendant 15 ans sur l'économie française?
Bon, d'abord, je crois qu'il y a une satisfaction, c'est l'inflation. Il se trouve que c'est la Banque de France qui
est en charge.
Avec la Banque Centrale Européenne, nous avons eu des très bons résultats sur l'inflation. Et ça a
aidé. Avec quand même un moment de souffrance.
Ah, bien sûr. Ça, on ne peut pas totalement faire abstraction des conditions extérieures. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été inflationniste. Mais en moyenne, l'inflation, depuis 15 ans, elle a été un peu inférieure à 2% en France. Au passage, ça a aidé le pouvoir d'achat. Alors, je vais peut-être surprendre ceux et celles qui nous écoutent et nous
mais
regardent.
Mais le pouvoir d'achat est en hausse très légère.
Le pouvoir d'achat, depuis 15 ans, a augmenté en moyenne par Français de 12%. C'est pas mal, c'est moins qu'avant. On pourrait faire encore mieux si on accélérait la croissance. Mais ça, je crois que sur l'inflation, c'est un point positif. Mon regret, c'est que notre débat ne regarde pas assez les meilleures solutions de nos voisins. Vous savez, on est très frappé dans ce bilan qu'il y a des pays européens. On dit l'Europe est en retard, est en train de se faire distancer par les États-Unis. Il y a au moins trois pays européens très proches de nous, qui ont un modèle de société qui ressemble, c'est la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, qui sur la plupart des sujets ont des bien meilleurs résultats.
Donc et pourquoi
on peut avoir le modèle social européen être innovant. Je crois que c'est des pays qui ont plus de consensus social, c'est des pays qui ont des entreprises plus innovantes parce qu'elles ont plus de fonds propres. C'est des pays aussi qui ont de l'épargne retraite privée en complément des retraites publiques. Ça diminue la charge sur les finances publiques. Et donc, je crois que c'est des pays que nous aurions intérêt à regarder sur leurs diverses solutions.
Qu'est-ce que vous direz à votre successeur? Je le rappelle, effectivement, dans un mois, vous passerez le relais vraisemblablement à l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, qui pourrait être votre successeur. Qu'est-ce que vous direz à votre successeur?
Je dirais que d'abord, c'est une magnifique mission que j'ai eu l'honneur d'exercer avec les 9000 hommes et femmes de la Banque de France. Je lui dirais d'être évidemment très très sensible à l'indépendance. Pourquoi? Parce que tout ce constat que nous publions aujourd'hui, il est objectif, il est là pour nourrir le débat, parce que la Banque de France regarde les faits et essaye d'apporter un constat avec lucidité. Nous ne roulons pour personne. Hein, et je lui dirais évidemment de continuer à exercer notre mission contre l'inflation, pour la stabilité de la monnaie. Dans l'incertitude dont on parlait, ça c'est un élément très important que nous apportons aux Français. Ils soutiennent l'euro. Et puis de continuer à plaider pour un certain nombre de réformes, parce que notre pays peut croître plus. Moi j'y crois, Apolline
de
Malherbe.
Oui, je vois.
Ça, c'est très
je
important.
Je vois, vous ne voulez n'y être.
Et je crois que nous avons, dans ce monde dangereux, incertain, nous avons, nous, Français, nous, Européens, beaucoup plus de cartes économiques en main
que nous
ne pensons.
Vous ne voulez jamais être réduit à la question de l'arène politique. Vous venez de citer le mot d'indépendance.
C'est pas que je suis réduit, c'est que nous n'y sommes pas.
Mais ce n'est pas ce que dit Marine Le Pen, qui, le 25 février dernier, disait, je la cite, « C'est une forme de violence institutionnelle que de verrouiller les institutions au point de manœuvrer avec Monsieur Villeroy de Gallo. Ce n'est pas anodin. » Elle sous-entend que le fait que vous partiez et que vous laissiez votre poste juste avant l'été, c'est une manière, au fond, pour Emmanuel Macron, de nommer votre successeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Si vous me permettez, Apolline de Malherbe, je vous arrête tout de suite. D'abord, je ne commande jamais les propos de responsables politiques, donc je ne vais pas commencer ce matin.
Elle s'adresse
mais
à vous.
Me concernant, personne ne m'a demandé de quitter mes fonctions. Et si on l'avait fait, j'aurais refusé. J'ai trop de respect pour l'indépendance. Je pars pour prendre une mission à laquelle on m'a appelé, c'est la présidence de la Fondation Apprenti d'Auteuil, qui est une œuvre magnifique en faveur de la jeunesse en difficulté. C'est pour cette raison-là, et évidemment, je le fais en homme libre, je demande qu'on respecte cette décision.
Voilà votre réponse ce matin. Merci beaucoup François Villeroy de Gallo d'avoir répondu à mes questions. Vous qui êtes donc le gouverneur de la Banque de France. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bonjour. François Villeroy de Gallo était mon invité dans le face-à-face ce matin. Bruno Le Maire voulait réagir à cette interview. Bonjour.
Oh la bonne blague. J'ai écouté les chiffres donnés par François Villeroy de Gallo 0% de croissance, 5% de déficit, une inflation à plus de 2%. Mais c'est pas à peine de me virer de Bercy si c'est pour faire ça, franchement. J'aurais très bien pu le faire moi-même.
Bon, vous avez critiqué le dispositif du gouvernement pour aider les travailleurs modestes, grands rouleurs, à faire face à la crise pétrolière.
Mais oui, mais c'est nul. Pour avoir 20 pauvres centimes de réduction par litre, attention, plafonné à 50 euros seulement. Il faut gagner moins de 1 500 balles par mois, parcourir 8000 bornes par an sur des trajets domicile-travail, uniquement dans une voiture française dont la marque commence par un H, et avec une plaque d'immatriculation à deux chiffres impairs. Offre valable, bien sûr, seul, si et seulement si le conducteur est originaire du Nord et si sa mère qui se prénomme Isabelle a les yeux bleus. Non mais attends, j'ai pas fini. Avec bien sûr une attestation sur l'honneur de ne jamais s'être curé le nez au volant de son véhicule tous les troisièmes jeudis du mois entre 7h et 9h.
Ah, voilà. Hein?
Non mais franchement, c'est pas avec ça qu'on va relancer l'économie française. Ceci dit, en pleine crise de l'énergie, une usine à gaz, c'est peut-être qu'il y a de mieux.
Oui, merci monsieur le maire. François Villeroy de Gallo, vous allez donc quitter vos fonctions de gouverneur de la Banque de France dans les prochains jours.
Oui, écoutez, je quitte mon poste, c'est un véritable séisme, il n'y a qu'à voir les marchés qui s'effondrent, les bourses qui chutent, l'euro qui décroche. En fait, non, tout le monde s'en branle.
J'avoue, je me suis permis, on se demande à quoi vous servez.
Oh, mais écoutez, je ne sais pas moi-même, de toute façon, j'ai totalement l'habitude, je n'ai jamais été écouté, les ministres se sont succédés, j'étais totalement transparent, j'étais une sorte de caution, voire de potiche, on a toujours fait semblant de me consulter, mais j'avais bien conscience que je pissais dans un violon. Fut-il un Stradivarius, ça ne change rien. Non, rassurez-vous, je suis lucide sur ma fonction. Mon départ est tellement un non-événement que si vous ne m'aviez pas invité, je ne me serais même pas rendu compte que je partais.
Il vous restait normalement encore un an de mandat. C'est vous qui avez choisi de partir ?
Oui, vous appelez ça un mandat ? Moi, j'appelle ça de la présence. Non, c'était, le moment était venu de passer la main. J'en avais plein le cul. D'autant qu'avec une économie française qui est à l'arrêt, un gouverneur qui s'appelle De Gallo, franchement, j'avais l'impression de ne plus être en phase avec ma fonction. Non. Le président choisira parmi trois candidats valables, trois candidats qui sont d'ailleurs taillés pour la fonction. J'aimerais d'ailleurs les citer et leur souhaiter bon courage. Il s'agit de Jean-Michel Surplace, Jean-Patrick Macharrière et Pierre-Emmanuel Récession. Oui. Moi, vous l'avez compris, je suis tout juste pour être un apprenti, fut-il un apprenti d'Auteuil.
Merci François Villeroy de Gallo. Tout de suite, on retrouve Pascal Praud, tiens, pour les titres de l'actualité.
Et oui, bonjour Apolline, les cadres sont de retour, on sent, il y avait du stagiaire la semaine dernière, oui, tellement heureux, du pas payé bien sûr, là c'est beaucoup plus lourd en termes de budget, tellement heureux de vous retrouver chère Apolline, j'ose avouer que ça a été très très dur la semaine dernière avec votre remplaçant, comment s'appelle-t-il, votre remplaçant, Mathieu Béliard, bien sûr, Mathieu Béliard. Oui, moi je l'appelle le gauchiste chevelu.
Oh non.
Et
non,
est-ce que vous avez déjà vu Mathieu Béliard sans son chouchou? C'est n'importe quoi. C'est Yvan Cassar. C'est à l'image de la présentation de sa matinée. Ça part dans tous les sens.
Non.
Pardon. Mais on n'est pas Woodstock. Hein. Bon, allez.
Vous voulez un truc cadré, quoi. Alors, les titres.
Passons à l'actu avec certains esprits pinailleurs, vous l'avez entendu, qui se moquent honteusement de Jordan Bardella, qui a confondu. Oui, c'est vrai, il a confondu Iran, Irak dans son dernier discours. Pardon, mais c'est anecdotique. Tout ça, ça reste des musulmans. Et puis, il peut y avoir très bien deux Irak et deux Iran. Il y a déjà deux Siciles. Donc voilà, le débat est clos.
Merci beaucoup, Pascal. Suite aux critiques du chancelier allemand sur la façon dont Donald Trump conduit les négociations sur l'Iran, ce dernier a décidé de retirer d'Allemagne plus de 5000 soldats américains. Et nous sommes avec Angela Merkel. Guten Tag.
Fais bonjour, Apolline von Malherbe. Permettez-moi de saluer François Villeroy de Gallo. Et j'ai envie de dire, mon François. Ah, les beaux gosses. Si, je me souviendrai toujours de cette réunion des gouverneurs de la BCE à Francfort, où j'ai vu pour la première fois François. Et rien qu'à le voir, j'avais plus de papillons dans le ventre qu'après 8 chopes de bière cul sec à l'Octoberfest. Depuis, je collectionne toutes les pages sommo du Figaro où il y a la photo de François. Et puis, on nous aurait appelé, si on aurait fait un très beau couple avec François, on nous aurait appelé Villeroy et Bosch. Meilleur que les blagues de demande. Oui. Ah, je m'attends à placer les boulets. Ça fait des vagues plus grosses que mon tsunami.
Quand même, revenons au sujet. Le gouvernement allemand a demandé à Donald Trump de reconsidérer sa décision. Les Allemands ne croient pas à une défense européenne.
Mais la défense européenne. Mais c'est comme une France sans dette ou une France sans déficit. On en parle. Mais on la fera jamais. Ah, humour, papa.
Vous n'avez pas besoin des Américains. Donc la France est un partenaire militaire solide quand même.
Mais ne me faites pas rigoler. Nous, les Allemands, on est bien placés pour savoir ce qu'elle faut, l'armée française. Vous a explosé en 3 jours. Souvenez-vous. Et puis, soyez lucides. Regardez ce week-end. Vous avez une rêve partie chez vous, dans les chairs, et sur un terrain militaire. Vous n'avez pas été foutu de déloger quelques milliers de joueurs de Diabolo armés juste d'un petit pétard. Non, alors, j'imagine une invasion russe. Qu'est-ce que ce serait? Non, la meilleure tactique, c'est d'apprendre les mots proches d'Adi Yatstvayus. T'as noté, Alain Marshall, Pi, il est pour le Marshall.
Yavol.
Et Pi, en Russie, c'est que ça veut dire pitié, je me rends.
Oh non.
Et là, je me rends l'antenne à Marshall.
Merci Nicolas. Merci beaucoup
pour retrouver
demain à 8h50 sur RMC.
Et à tout
moment en podcast. Alain
Marshall
est rentré dans ce studio.
Salam.
Salut Alain,
les GG. Bonjour à tous, les grandes gueules, effectivement, en direct sur RMC jusqu'à midi. La Free Party géante dans le Cher. Est-ce que l'État a été humilié? Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui demande à Total un plafond généreux des prix à la pompe. Est-ce que Total doit en faire plus? Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? La patronne des écologistes, Madame Tondelier, qui veut un congé payé climatique de 5 jours. Voilà des sujets sur lesquels réagiront les grandes gueules. Et puis nous recevrons, avec vous bien sûr, au 32-7. Et puis nous recevrons l'éditorialiste, journaliste Natacha Polony. Elle revient avec un livre sur la France corps et âme, la France et son patrimoine, la France et son agriculture, la France et son école, la France et sa langue. Il faut les sauver. Natacha Polony viendra s'en expliquer, donner tous ses arguments avec nos GG, avec nos grandes gueules. Et on vous attend bien sûr comme tous les jours, je vous le disais, au 32-16. À tout de suite.